Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After jusqu'à minuit. L'After première radio de France le soir grâce à Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Grâce à Kevin Diaz avec nous ce soir.
Salut à tous.
Salut Kevin. Et grâce à Florent Gautreau qui rentre tel un artiste attendu et déterminé.
Salut à tous.
Salut Florent.
Je vais laisser sa place mais normalement en retard c'est au pic. Hein.
Bah, retard, c'est combien Lusitanos l'amende?
50 euros.
50 euros? Ah, t'es dur, ça, c'est ce qu'ils gagnent au moins, les mecs.
Mais t'inquiète pas pour eux.
Et c'est quoi, qu'est-ce que tu appelles le retard? Retard à l'entraînement?
Ah non, retard, là, c'est jour de match, là, on n'est pas à l'entraînement, là.
C'est... Jour de match. Mais et c'est quoi, retard? Parce qu'il y a un rendez-vous, comment vous fixez le rendez-vous, en fait?
Bah, le rendez-vous, c'est 16h30, dernier délai. Si t'es là à 16h31.
Mais c'est quoi, assis dans le vestiaire, c'est qu'est-ce que vous attendez?
Non,
qu'est-ce que vous appelez la présence?
Quand tu rentres dans le vestiaire.
Quand tu rentres dans le vestiaire.
Dans les locaux.
D'accord, ok.
Voilà. Ouais. T'as garé ta voiture, tu rentres dans les locaux, t'es pas en retard.
J'entends. Voilà.
Ah, okay. C'est la méthode hollandaise. Hein,
Ouais, c'est bien. J'aime
l'heure,
bien.
C'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure.
Je devrais mettre 50 euros à Flo.
Demande à Flo de lâcher 50 balles tout de suite. Là, ça va être très bien.
Oui, t'es en retard, tu lâches.
T'es en retard. Tu vois, Gilbert a dit Florent Gautreau, je dis bonjour. Pour moi, c'est ça le. Bon, alors, on va considérer que le retard désormais, c'est quand je lance la personne et que si elle n'est pas là pour me répondre.
Donc, oui, s'il avait été sérieux. J'aurais noté qu'il a quand même laissé traîner. Cool. Oui, donc, et la troisième personne va arriver, le déterminé.
Le Gautreau, il est annoncé en deuxième. Pas en troisième.
C'est même pas qu'il a laissé traîner la phrase, Gilbert. Ouais.
Je reconnais que le coach était sympa.
C'était cadeau.
Et j'aime bien ta technique. Tu lances ce bonjour, si le mec est pas là,
amende. 50 balles.
Bon, l'événement, les gars, ce soir, c'est bien sûr la finale de la Ligue des Champions. C'est dans maintenant 44 heures. Enfin, un peu moins. 43 heures.
Il a bossé, Gilbert.
Ah oui, c'est ça.
44 okay. heures. Eh ouais. Oui. 18
J'arrive
heures.
Je pas à m'y faire que ce soit 18 heures.
Bah, il va falloir.
Chaque fois, je pense à ma journée de samedi, j'ai un souci d'horaire.
Mais en grosse soirée sur RMC, on sera en direct dès la fin du match et jusqu'à, on l'espère, très tard dans la nuit, si le PSG l'emporte.
Parce que tu vois, t'as pas mis de crème solaire, toi, Roland Garros, aujourd'hui.
Si, j'en ai mis, mais je.
Une grosse partie de l'équipe de l'After était à Roland Garros.
Moi, j'ai pas croqué, moi.
Moi non plus. Je signale à tous les
ça
auditeurs
se voit, tout blanc.
Qu'effectivement, il y en a qui bossaient pendant que les autres croquaient.
Moi, je suis caramel de naissance.
Moi, je dirais plutôt dulce de leche.
Ouais, c'est pas mal. Après, moi, j'ai la couleur automne-hiver et printemps-été. C'est comme la Fashion Week.
En revanche, j'ai pas trop compris, mais okay.
Bah, j'ai deux couleurs, quoi. Les couleurs en hiver.
Bon, tu en okay. Je suis en plein sommaire.
Daniel, reprends. Il s'est passé des trucs à Roland Garros aujourd'hui, non?
Ouais.
Ah non, ça y est, vous allez pas partir là-dessus tout de suite.
Ah ok, non, c'était pour savoir.
Par rapport à quoi?
Non, par rapport à.
Ah, parce que tu vas faire comme Walid, vous moquez des souffrants et des malades?
Mais non.
Non, mais faire des malades.
Mais non, mais t'avais dit que le tournoi était déjà gagné.
Si le mec il a une défaillance, t'avais dit que le tournoi était déjà gagné.
Attention, le sport, reste le sport.
Son seul adversaire était sa santé.
Il y a un truc.
Qui commence à devenir préoccupant.
Non, mais il n'y a pas un truc lié au soleil, justement, et à la chaleur?
Si, bien sûr que si.
Je sais pas s'il y a ça, mais j'avais lu un papier.
Évidemment qu'il en souffre, on le sait. On sait depuis longtemps qu'il souffre de ça. Mais plus globalement, il faut s'interroger sur la santé de ces joueurs qui enchaînent. Moi je trouve, j'ai pas l'impression que leur calendrier soit si démoniaque. C'est délirant, voyages, mais je trouve quand même que ce soit Sinner et Alcaraz, parce qu'Alcaraz aussi, on n'en parle pas, mais il va rater deux grands chelems, il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Alors, ok, on peut me dire sa blessure, c'est une blessure identifiée, poignée, c'est pas une défaillance sur le court, mais je trouve qu'ils prennent vraiment, vraiment beaucoup, ils ont beaucoup de précautions vis-à-vis de, par rapport à leur corps, à la différence de ceux de la bande qui était là avant, qui était lancée dans une espèce de course frénétique au record, au risque peut-être de leur santé. Demain sort un doc qui va être absolument passionnant sur Nadal, où on apprendra à quel point il a joué pendant des années blessé au risque de sa santé, sous infiltration anti-inflammatoire très fréquemment. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ils sont beaucoup plus fragiles. Est-ce qu'ils sont normaux et que c'était les autres qui étaient pas normaux? Je sais pas.
Et puis après, il y a l'état.
Parce qu'il faisait pas si chaud que ça. Enfin, il faisait très chaud aujourd'hui, mais
non, aujourd'hui, c'est la canicule.
Ou non, mais en Australie, il est arrivé qu'il joue avec. Après, il y a le protocole chaleur, il existe depuis peu en Australie. Pendant des années.
Les fameux œufs en Australie que tu faisais cuire sur
le. Oui, voilà. Tu te souviens de ces reportages-là, ça n'existe plus. Aujourd'hui, au-delà d'une certaine température, toit fermé, on a changé. C'est comme les cooling breaks dans le foot. Après, à une époque, ça n'existait pas. On jouait au Mexique, le quart de finale 86.
Moi, je pense que
c'était
grosse,
la folie. Ou à Séville, la demi-finale de.
Il y a une grosse différence, Daniel. Tout sport confondu, foot, tennis ou quoi. C'est que tu as désormais une intensité. Dans la pratique
et dans l'effort, oui,
dans l'effort,
c'est vrai.
Je veux dire, voilà, le France-Brésil, si vous revoyez les images aujourd'hui par rapport à un match de haut niveau de Ligue des Champions aujourd'hui, bah, ça va à 2000 en fait. Oui. Ça n'allait pas à 2000. Et le tennis, c'est pareil. Si tu regardes les matchs des années 70, t'as l'impression que ça jouait à 2 heures par rapport à maintenant.
Ils n'ont pas les mêmes corps, leur matériel, leur nutrition.
Le corps humain reste beaucoup plus développé. Le corps humain reste quand même fragile, hein, ça reste quand même. Et puis après, franchement, c'est comme la soutenance, mais si la soutenance à la chaleur ou au froid, il y a des gens qui ne supportent pas de faire du sport quand il fait moins de zéro. Il y en a d'autres qui le supportent. Moi, franchement, j'avais du mal à jouer.
On est quand même dans une société où ce que les Américains appellent le care a beaucoup augmenté.
Oui, mais le care pour monsieur tout le monde. En fait, moi, je vais te dire,
non,
sportif de haut niveau.
Même les sportifs, regarde la cooling break. C'est quoi?
Oui, mais globalement, sportif de haut niveau, ça te détruit. On parle du sport de haut niveau tout le temps, le foot et tout, mais ça te détruit.
Les hanches pour les footballeurs.
Moi, je ne souhaite pas à mes enfants d'être sportifs de haut niveau, très franchement. Faites des études.
Les genoux, les pieds, voilà. L'arthrose.
Le sport de haut niveau, ça te détruit.
Si tu veux te lancer dans cette aventure-là et que tu y arrives, c'est des expériences fantastiques, fabuleuses. Tu peux pas. C'est un rêve.
Le sport ou quoi? Je suis allé à l'hôpital uniquement à cause du sport depuis que je suis né. Si j'avais pas fait de sport, j'aurais jamais mis les pieds dans un hosto. J'ai un petit souci à l'oreille. Ouais.
Au moment où je dis je vais à l'hôpital, je vois qu'il a l'oreille en sang. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais faire une pause. Je sais pas. Ouais,
on va te soigner là.
Je fais une pause infirmerie.
Je pense qu'il faut que tu y ailles là.
Du coup, je reprends mon sommaire. Je disais donc l'événement du soir, c'est la finale de la Ligue des Champions qui rapproche dans maintenant moins de 44 heures. Toutes les infos du jour dans quelques secondes. Et puis un débat. Est-ce que PSG-Arsenal sera avant tout un duel de coach? On va en parler. On attend vos avis au 32-16. Kevin, d'ailleurs, nous expliquera ensuite pourquoi il faut s'inspirer de la méthode Arteta. Ce sera tout à l'heure. L'avis de l'after ensuite sur l'élection de Mbappé comme joueur préféré des supporters du Real. Tiens, alors qu'on pensait qu'il était détesté par tout le monde.
Non, je pense que c'est truqué, non?
C'est pas possible.
Comme les
pétitions récentes.
Tout le monde disait sur les réseaux qu'à Madrid, il était honni.
Il y a un autre sondage aujourd'hui dans l'équipe où on voit que, bon, ça, a priori, ça devrait aller.
Je pensais qu'il était, quand tu lis les réseaux sociaux, t'as l'impression que c'est la guerre nucléaire.
En même temps, arrête de lire les réseaux sociaux.
C'est l'avis également de beaucoup de gens dans les rédactions. On entend des choses complètement folles. La mesure n'existe plus à ce sujet.
On en débattra tout à l'heure.
On va voir que les supporters du Real l'ont élu meilleur joueur de la saison. Je suis tombé de ma chaise.
Et puis à 23h, nous irons au Brésil. Eh oui, la Coupe du Monde, c'est dans 14 jours. Les gars, vous saurez tout d'abord de Philippe Luis. Ça, c'est le radar avec la Coupe du Monde. Mais Philippe Luis, le coach, arrive à Monaco.
C'était le coach hype du Mondial des clubs l'année dernière.
Ouais, exact.
Hein,
une bonne tronche d'ailleurs. Et puis, vous saurez tout de la dernière dinguerie Neymar. Appelé donc il y a quelques heures, blessé, et du coup, participation à la Coupe du Monde, remise en question d'ores et déjà.
C'est pas comme si j'avais pas annoncé le scénario.
C'est la blessure.
Ah si.
Tu avais annoncé qu'il allait être blessé.
Oui, je sais pas qui était là ce soir-là, mais oui.
Ah bon, ouais. On va essayer de retrouver les preuves.
Il y a pas de problème.
Et puis on parlera également de l'imbroglio des barrages. Demain match retour entre Nice et Saint-Etienne sur RMC. Abdi a quitté Nice aujourd'hui pour rejoindre la sélection tunisienne. On a des infos à vous faire partager, on vous expliquera ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Nice a communiqué également. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. 32-16, on vous attend pour tous ces sujets. Le numéro WhatsApp de l'After également est là. 06-12-424-424. 06-12-424-424. Et puis, vous savez que c'est le début des matchs amicaux. Alors, vous allez me dire que ce match amical-là, peut-être qu'il a assez peu d'intérêt, mais je vous le donne quand même. Le Qatar, qui est à la Coupe du Monde, et en s'étant qualifié cette fois, pas qualifié d'office, le Qatar joue un match amical face à l'Irlande, 1-0 pour les Irlandais, et l'Égypte, qui participe aussi au Mondial, a fait un match amical aujourd'hui contre la Russie. Ils ont gagné 1-0. Voilà. Roland Garros donc ce soir, c'est Arnaud Valadon qui est sur place avec des Français. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir messieurs, et pour l'instant ça se passe moyennement sur le cours central pour Arthur Rinderknecht, tête de série numéro 22, mené 2-7-0 face à l'Italien Berrettini. Pas sûr que ça soit demain, c'est Quentin Alice face à Sacha Zverev pour la night demain.
Ah ouais, demain.
Mais ce soir Berrettini qui fait, voilà, qui redonne un peu de couleur aux Italiens, qui mène 2-7-0, 6-4-6-4. Et puis sur le cours numéro 7, à l'instant, Brandon Nakashima vient d'égaliser à 2-7 partout face à Lucas Van Aché. 5e set sur le cours 7.
Alors c'est, je me doutais que ça allait être très long, mais là c'est
3h40 de jeu.
Ah ouais, ouais.
À tout à l'heure.
Lucas Van Aché, ancien joueur de mon club de tennis.
Ah ouais, c'est beau ça.
On l'a vu tout petit.
Julien Laurence est là.
Il est très grand.
Non, il est pas très grand.
Julien Laurence, qu'on a aussi vu tout petit. Hein. Mais on était aussi tout petit.
Je croyais que c'était lui.
On était tous tout petits.
Ah non, ça, c'est Ryan Darnay.
Okay. Salut Julien.
Je suis un peu le tennis, c'est bien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah, il est déjà là, Julien.
Bah, il est déjà là. Il est là depuis, déjà, il est là depuis plusieurs années. Et là, on est quand même à 48 heures.
À 22h10. De... Je pensais qu'il était déjà à Budapest en train de faire des duplex avec une terre entière.
Ah, tu y es déjà ?
J'y suis. Ouais, je viens de finir la BBC là.
Ah bah voilà.
Ah, il est fort,
là,
il est fort.
Il est déjà là-bas.
Et qu'est-ce qu'on dit sur la BBC ? Ils disent quoi ? C'est intéressant d'avoir
parlé. Eh bien, figure-toi, on a fait un débat un peu similaire que celui qu'on va avoir sur les deux entraîneurs. Sur Luis Enrique et Arteta, les filiations, l'état d'esprit, un peu de tactique, un peu de tout ça aussi.
Bon, du coup t'as bossé ton débat de l'after avec la BBC. Bon, c'est vrai que la BBC, qu'est-ce que ça pèse par rapport à l'after ?
Ça, on se le demande.
Ben, franchement.
Il y a les émissions de foot sur la BBC.
Sur certaines de leurs radios, ouais. Ils ont des radios très musicales et d'autres radios beaucoup plus sportives. Ouais. Mais ça n'arrive pas à la cheville de l'after.
Oui, bon, on est d'accord. Donc, est-ce que ce sera un match de coach avant tout, les gars ?
Moi, je pense que oui. Hein. Clairement.
Alors, qu'est-ce que vous appelez le match de coach ? Est-ce que ça veut dire que c'est un match qui se jouera tactiquement ? Dans la préparation, dans la façon dont va se dérouler le scénario du match, c'est ça que vous entendez par là ?
Bah, je pense que oui, c'est des coachs qui ont quand même beaucoup d'influence et beaucoup d'importance dans l'état d'esprit, mais aussi dans la stratégie qui va employer l'une et l'autre des équipes. Je te parle même pas des coups de pied arrêtés, notamment pour Arsenal, parce que s'il y a bien un domaine où ils peuvent faire mal au Paris Saint-Germain, avec leur densité physique quand même bien moins élevée, leur milieu de terrain qui font 1m70 maximum, par rapport au gros gabarit de cette équipe d'Arsenal. Donc oui, non, je pense que les coachs, le plan de jeu qui sera choisi par l'un et l'autre des coachs, est-ce qu'Arsenal va attendre, est-ce qu'Arsenal va jouer en bloc médian, est-ce qu'Arsenal va aller chercher, est-ce que le PSG va jouer son jeu, est-ce que le PSG va jouer une forme de jeu où ils peuvent attendre aussi, prendre un contre-pied, jouer en transition.
Est-ce que l'un ou l'autre vont réussir à imposer leur idée initiale, déjà, qu'ils auront au départ?
Oui, mais est-ce que l'idée initiale ne sera pas de surprendre pour faire autre chose
Est-ce qu'il va falloir s'adapter à ce que l'autre va proposer. En tout cas, pour reprendre le début du débat, puisque ces derniers temps, on a très souvent eu le débat du rôle aujourd'hui que pouvait avoir la tactique par rapport au management dans le foot d'aujourd'hui. Et vous savez ce que j'ai souvent dit à ce sujet. En revanche, quand on a des coachs et des clubs qui ont, à mon sens, résolu les problèmes de politique sportive, de management, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur environnement et ce qu'il y a autour d'eux. Je pense que c'est le cas de ces deux clubs en ce moment. Le travail d'Arteta a commencé bien avant celui de Luis Enrique au PSG. Néanmoins,
il y avait plus de travail.
Exactement. Plus de travail, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait du travail. Mais en tout cas, les deux ont résolu un tas de questions qui se posent dans la politique sportive des clubs. Ils ont nettoyé et mis en place des équipes qui sont performantes, même si c'est dans des styles très différents. Quand on a résolu tous ces problèmes-là, que peu de clubs finissent par résoudre assez vite. Je pense que le Bayern a résolu une grande partie de ces problèmes-là maintenant, avec l'acceptation que Kompany était réellement le coach et tout, parce qu'au début de l'année dernière, il y avait quelques doutes autour de lui.
C'était pareil pour Arteta au début.
Exactement. Quand tu as résolu ces problèmes-là, là, oui, dans le fameux débat qui nous opposait notamment récemment, je ne sais pas si tu étais là, mais il y avait Walid quand on en parlait, ou même l'autre soir avec Pierre Sage. Quand on a réglé ces problèmes-là, là, oui, on peut revenir à des choses où je m'attends à des coups tactiques, je m'attends à ce qu'un coach mette en place quelque chose, je peux m'attendre à ce que on soit surpris par le positionnement d'un joueur ou l'autre. Là, oui. Là, dans ces cas-là, évidemment, on arrive à une sorte d'aboutissement où la tactique elle est prépondérante et évidemment sublimée par l'apport individuel, parce qu'évidemment un attaquant qui te met une frappe poteau ou dedans ou un fait de jeu peut venir un peu dégommer toute la mise en place et la préparation. Mais là je pense qu'on est dans l'élite, là on est véritablement au dernier degré de préparation. Et c'est d'ailleurs assez curieux, enfin curieux je sais pas si justement c'est curieux, mais notable en tout cas que ce soit deux clubs à ce point préparés, à ce point bien managés, qui se retrouvent en finale. Je trouve que ça c'est fort et c'est ça qui est remarquable.
J'aimerais qu'on rentre un peu concrètement sur ce duel de coach. On a vu par exemple lors du tour précédent que PSG Bayern était aussi un duel de coach dans la stratégie, dans ce qu'ils ont mis en place et tout. Est-ce que concrètement, qu'est-ce que Arteta pourrait préparer d'un peu surprenant, toi qui le connais bien, Julien?
Alors moi je pense qu'il va logiquement, et je pense qu'il connaît cette équipe du PSG par cœur, sincèrement, déjà la demi-finale de la saison dernière, rappelez-vous on avait vu deux matchs fantastiques. Finalement, le PSG s'est qualifié, mais ça aurait très bien pu tourner de l'autre côté, on en a déjà parlé un petit peu. Si Donnarumma sort pas des arrêts assez incroyables à l'aller et au retour, ça peut tourner différemment. Mais je pense que, dans un sens, il y a un côté exemple de ce que Luis Enrique a fait au PSG, qu'Arteta est en train de suivre, ou a essayé de suivre, ou a suivi à Arsenal. Dans le changement de culture, le changement de mentalité, la machine qu'il a construite, qui est une machine très différente de la machine que Luis Enrique a construite. Ce sont deux entraîneurs qui sont très similaires, mais aussi très différents, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans le mâle alpha qu'ils représentent tous les deux, les patrons qu'ils sont, ça bouge pas. Les grandes stars, demain, ce sera eux. Ce sera personne d'autre. Pas un Saka, pas un Dembélé, pas un Kvaratskhelia, pas un Odegaard.
Et si t'as un de ces mecs-là qui met un doublé ou qui met une frappe lucarne,
oui, mais tu vois ce que je veux dire.
Le joueur de foot qui est la star sur un T1 va reprendre le dessus.
Disons que c'est les hommes de base du projet.
Oui, voilà, ça, bien sûr. Oh, oui.
Et moi, je pense que Arteta peut préparer quelque chose. En fait, le PSG pose tellement de questions à ses adversaires à chaque match, parce que c'est dur de jouer contre eux. Il y a tellement de variations, il y a tellement de permutations, il y a tellement de mouvements. C'est ce qu'on explique souvent, la fluidité à l'intérieur de la structure qu'ils ont. Maintenant, ils ont rarement joué contre une équipe qui voulait peut-être offrir quelque chose d'assez similaire. Mais si tu regardes par moment comment cette équipe d'Arsenal a joué, ou comment elle est capable de jouer, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle l'a pas fait non plus, mais Calafiori a un rôle très similaire de celui d'Hakimi, par exemple, parfois. Il vient au milieu de terrain, il se retrouve dans la surface adverse, il est très offensif, il est très libre, finalement, dans ce qu'il peut faire quand Arsenal a le ballon. Si tu prends un joueur comme Lewis Kelly, par exemple, qui, pendant les trois quarts de la saison, a quasiment pas joué, et puis là, finalement, on est en train de se rendre compte, du côté d'Arsenal, qu'il a plein de qualités qui sont très intéressantes pour jouer contre des équipes comme le PSG. Lui, c'est pareil. Il peut résister au pressing, il est très intelligent dans la façon dont il joue, il perd peu le ballon, en général. Ça peut être très intéressant pour un match comme celui-là. Et en fait, je pense que tu peux, si t'es Arsenal et Arteta, si t'es courageux, hein, parce qu'ils peuvent aussi faire quelque chose de plutôt neutre et très bien défendre et être difficile de jouer contre, mais tu peux aussi essayer de prendre le PSG à son propre jeu. Et toi,
de toute façon, aujourd'hui, Julien, comme tu dis, prendre le PSG à son propre jeu, c'est aussi d'être aussi hybride que eux. Parce que le PSG, aujourd'hui, pourquoi c'est la meilleure équipe d'Europe? C'est parce qu'ils savent tout faire. Ils savent avoir le ballon, ils savent subir, ils savent jouer en transition, ils savent jouer en transition en récupérant les ballons hauts, ils savent aussi jouer en transition en récupérant les ballons bas. Et c'est là où ils sont le plus dangereux.
C'est exactement ça que j'allais dire. Je trouve que c'est même là où ils sont devenus meilleurs, c'est dans les phases de transition. Ils ont des sorties de balles ultra rapides avec des joueurs rapides très forts dans l'élimination. Le fait de donner l'avant-dernier et le dernier bon ballon, et en plus ils sont habiles dans la finition, mais c'est véritablement dans le jeu de transition que je les trouve le plus performant. Ce que j'aimerais dire également, c'est deux coachs,
ou alors tu le dis après la pause.
Après la pause, hein.
Très bien, on se retrouve donc tout de suite, le débat continue et Thomas au 32-16 veut également y participer.
RMC 22h minuit, l'after foot,
Gilbert Bribois.
Il est 22h19, l'after est là jusqu'à minuit. Julien Laurence toujours avec nous, car on parle à moins de 48 heures du match de la finale de la Ligue des Champions, bien sûr. Énorme événement samedi sur RMC. Daniel Riolo, Kevin Diaz, et notre débat sur la finale, le match des coachs qui se prépare. On a Thomas avec nous.
Je vais finir ma phrase. Chaque fois que tu fais genre après la pub, et puis après la pub, il y a Thomas qui arrive.
D'habitude, tu oublies.
Non, je voulais juste terminer ma remarque concernant les deux coachs. C'est que ce sont des coachs qui ont su évoluer et qui ont, parce qu'ils viennent plutôt d'une école assez dogmatique. Ils viennent de la même pensée footballistique et ils le sont encore aujourd'hui, même si ça ne se voit pas toujours sur le terrain dans la façon dont l'équipe évolue. Néanmoins, ils viennent de la même pensée footballistique. Mais les deux ont su évoluer. On a beaucoup dit cette année à quel point Mikel Arteta avait, paraît-il, changé le jeu de son équipe. On a beaucoup parlé du retour du boring Arsenal. Je pense que c'est plus une équipe qui est capable de beaucoup bouger en fonction des joueurs qu'elle a à sa disposition et qui peut proposer des belles prestations comme des prestations plus épicière, on va dire. Mais le PSG aussi a beaucoup évolué. Entre le PSG de la première partie de saison, enfin de la première époque, Luis Enrique, qui était beaucoup dans cette possession stérile, un peu latérale, et celle de 2025, qui est devenue beaucoup plus directe. Mais aussi parce que tout le groupe a fini par le suivre, alors qu'au départ, ça n'a pas été si simple. D'ailleurs, comme Mikel Arteta, qui a mis du temps lui aussi à être complètement accepté et avoir un groupe totalement à son écoute, avec des staffs très importants. On parle beaucoup, bon, évidemment, le staff de Luis Enrique, on le connaît, il est extrêmement important. Celui d'Arsenal aussi, avec le rôle de Gabi Ainsa notamment, le fameux gars qui fait les coups de pied arrêtés. Des staffs étoffés et qui regardent exactement dans la même direction. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'ils avaient résolu tous les problèmes de direction du club et de management pour se consacrer uniquement à ce qui se passe sur le terrain.
C'est d'ailleurs ce que je
et ils sont capables de s'adapter à l'adversaire et de jouer de façon différente, en fait.
Thomas, au 32-16. Salut Thomas.
Salut Gilbert. Salut à tous.
Salut Thomas. T'es supporter du PSG. Est-ce que tu te dis que c'est les aspirations de Luis Enrique et Arteta qui peuvent décider du match?
De toute façon, on va avoir un match avec des styles assumés de part et d'autre. Hein, je pense que les deux entraîneurs vont maintenir ce qu'ils ont montré toute l'année. Mais on risque de retrouver effectivement en fait une équipe comme Arsenal, surtout pour les avoir souvent vus jouer on savait très vite qu'on jouait contre eux. Donc avoir vu les derniers matchs d'Arsenal, c'est une équipe qui en fait aime aussi imposer son rythme, c'est-à-dire en cassant un peu celui de l'adversaire. Julien, je sais pas s'il pourra confirmer, j'ai vu une stat qui est passée récemment. Ils ont gagné un match contre Brighton cette année en première ligue en jouant que 60 minutes et en passant 30 minutes à faire des remises en jeu, des corners, casser un peu le rythme, faire casser un peu le jeu et gagner 1-0 à la fin. Arsenal, c'est là à mon avis que vient le dicton boring Arsenal. Mais on a Paris, et je rejoins Daniel en fait, qui pour moi est très très fort dans les transitions, et je pense que c'est la force numéro une de cette équipe, et Luis Enrique en a fait vraiment une machine sur ce plan tactique. Et c'est vrai que quand vous avez des ressorties de balles comme ça aux 30 mètres où ça va très très vite, c'est là que Paris pour moi est le plus dangereux. Mais Paris sait s'adapter à tout type d'adversaire. Au moins un Liverpool qui est venu au Parc cette année, jouait très bas, bloc très bas. Paris a trouvé des différences quand même malgré tout avec une frappe de Doué. Bon voilà, c'est la grande force du PSG pour moi, c'est de s'adapter, et ils pourront s'adapter au style d'Arsenal.
Aujourd'hui, de toute façon.
Et ensuite, Julien.
Moi, il y a un surnom que je ne peux pas, je déteste l'entendre, c'est ce dont tu viens de parler, c'est Boring Arsenal. Mais boring quoi, en fait? Boring quoi? Ils ont gagné le titre, il n'y a pas de boring.
En fait, tu recycles une vieille expression des années 80.
Oui, mais j'avais bien compris. Mais aujourd'hui, en quoi cet Arsenal est ennuyant? Aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus d'équipes et de plus en plus de managers de très haut niveau ne veulent plus avoir la possession parce qu'ils considèrent qu'une possession qui est subie n'est pas une possession. Souvent on dit « Ah, j'ai eu la possession ». Mais est-ce que tu as eu la possession parce que l'adversaire t'a laissé avoir la possession et parce qu'elle pensait qu'elle allait plus te mettre en difficulté en te laissant avoir le ballon? C'est souvent l'image que je prends, c'est le boxeur que tu laisses avancer pour se découvrir. Mais que toi, tu as ta stratégie, et dès qu'il va essayer de t'en mettre une, c'est là où tu vas tenter l'hypercute ou le crochet. Le contre. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes, notamment Arsenal et le Paris Saint-Germain aussi, mais même Manchester City, hein, qui pour moi, je le disais quand on commentait la première ligue, Julien.
Ah bah la possession n'est plus du tout à la mode.
Où je disais que même Manchester City s'était mué quand même dans une équipe qui maîtrisait de mieux en mieux la transition, notamment avec quand Ederson est arrivé et qu'il était capable en une passe de trouver Agüero qui était derrière le dos de la défense.
Transition, joueur d'impact.
Il faut faire les deux.
Très fort dans l'avant-dernière passe. Évidemment la dernière, mais déjà celle qui va casser le premier rideau. Maintenant, le football de très haut niveau, c'est souvent là que ça se joue. Hein.
Alors Julien, est-ce que Thomas t'a interpellé là? Vas-y, tu peux répondre. Et non, mais ensuite est là. Oui. Vas-y.
Ouais, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on le dit. Hein. Cette équipe d'Arsenal, c'est la meilleure pour contrôler le tempo, contrôler le rythme d'un match. Et ça, t'as parlé Thomas.
Franchement, s'ils arrivent à faire ça contre le PSG, Julien, je suis sur le cul.
Ouais, mais moi aussi. Mais ce que j'allais dire sur ce que disait Thomas, il a parlé de Liverpool tout à l'heure. Mais Liverpool, c'était à contre-emploi le bloc bas. C'est pas ce qu'ils font habituellement. Ouais. Le PSG cette année n'a jamais joué contre une équipe du niveau d'Arsenal sans ballon dans la structure défensive que raison, l'adversaire oui. va pouvoir le... Mais de la même façon, on peut aussi dire que cette équipe d'Arsenal n'a jamais affronté un pressing aussi efficace et intense que celui du PSG aussi. Donc ça ira dans les deux sens et on verra bien au final qui sortira vainqueur de la bataille que l'autre va lui apporter. Mais c'est vrai qu'une équipe, regarde, si tu regardes le match du Bayern ouvert, ça marche pour le PSG dans plein de sens. Le match de Chelsea ouvert, pareil. Le match de Liverpool finalement aussi, même s'ils ont essayé de faire ce bloc bas et qui finalement n'avait aucun sens, la défense à 5 de Slot au match aller, elle est ridicule. Ça a ni queue ni tête. Mais ça a joué sur les forces du PSG. Là, samedi, ça jouera pas sur les forces du PSG parce que cette équipe d'Arsenal, elle est vraiment difficile à bouger. Si elle joue comme ça, elle peut nous surprendre et Arteta peut faire quelque chose de différemment. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est quelque chose que et le PSG ne connaît pas trop cette saison et Arsenal ne connaît pas trop l'intensité du pressing adverse comme le PSG va peut-être le proposer aussi.
Flo, t'as raté une partie du débat pour un arrêt au stand.
Du coup, il sait pas ce qui a été dit. Non, va-t-il répéter quelque chose qu'on a déjà dit? Non, attention.
Moi, il y a un truc pour répondre à la question, c'est est-ce que c'est un match de coach, une finale de coach? Oui, à 100%, parce que justement, le PSG Bayern, pour moi, était un match totalement hors norme. Dans le sens où les deux coachs, quelque part, ont presque tapé dans la main avant le match en disant, OK, c'est l'équipe qui marquera le plus de buts, qui va l'emporter, on est d'accord et on y va. Et là, dans ce cas-là, c'est le talent des joueurs. Je me souviens que Polo avait dit ça d'ailleurs en disant, je peux pas vous dire ce qui va se passer parce que le talent des joueurs va s'exprimer et une frappe en lucarne et un machin va faire la diff. Et auquel cas, je dirais que ce PSG Bayern n'était pas vraiment un match d'entraîneur, c'était pour moi un match de joueurs. Alors que là, comme le vient de le dire Julien, par rapport à ces deux faits, c'est-à-dire que Arsenal soit aussi fort sans ballon et que le PSG ait ce pressing aussi puissant et que aussi intense que l'on connaît, fait que là, les coachs, dans leur décision de mettre le bloc plus ou moins médian, parce qu'ils le mettront pas bas, je parle notamment pour Arsenal, dans le contrôle du tempo et de la réaction au pressing contre pressing, là, je pense qu'effectivement, les coachs vont avoir une importance même dans leurs décisions et dans leur rapport et dans leur communication avec l'équipe pendant le match. Donc je pense qu'effectivement c'est plus que jamais un match de coach, en dehors du contexte historique de ces deux coachs, de ce côté on va dire la rivalité barcelonaise, etc., et tout ce qui s'est exprimé on l'a senti dans les mots d'Arteta. Ça déjà c'est un vrai match de coach mental, et je pense que les deux ont envie vraiment de niquer l'autre, enfin, entre guillemets, pour faire simple, mais en plus vraiment, ouais.
C'est cagnotte ça, non?
C'est cagnotte. Clairement cagnotte.
C'est le deuxième amende de la soirée, quand même.
Mais en revanche, match de coach tactique, pour le coup, vraiment, oui. Je pense qu'à la fin, on fera un débat pour dire l'un ou l'autre a gagné.
Ou alors, il va y avoir 0-0, pénalty, quoi.
Non, je pense pas.
Et Gilbert, aussi, oui. Le coaching en cours de match, hein.
C'est ça.
Aussi un match qui, à l'heure de jeu, peut tourner si tu fais les bons choix en sortie de banc. Et si on regarde les deux bancs, on sait plus ou moins les compos. Alors après, on peut se tromper peut-être, mais est-ce que Barcola et Zaïre Emery, on va dire, en sortie de banc pour le PSG, plus que Gonzalo Ramos ou Kang In Lee, ça vaut plus qu'un Eze ou qu'un Gyökeres? Parce que je pense que Gyökeres sera sur le banc pour commencer. Et à quel moment ton banc à toi?
Comment tu les vois jouer devant alors si Gyökeres démarre pas?
Moi, je pense que c'est Havertz qui va jouer, mais finalement, ça a du sens si c'est Havertz. Dans l'intelligence de jeu, le fait qu'il puisse décrocher et jouer entre les lignes, par exemple. Si t'es pas de chaud aujourd'hui, tu préfères qui, Gyökeres ou Havertz?
Havertz avec quoi? Avec Saka et
Saka à droite. Et moi, j'aurais mis Eze à gauche, mais je pense que ce sera Trossard à gauche. En plus, Trossard, dans les gros matchs, il a été bon cette saison. Tu vois, mais pour moi, enfin, après, c'est possible que ce soit Gyökeres, hein, je sais, qui préfère la puissance et s'il veut jouer en transition, de toute façon, même si cette équipe d'Arsenal, pour moi, elle est pas faite pour jouer en transition. Mais si
le côté harceleur prêt à beaucoup courir de Gyökeres, ça peut être un choix, hein, pour.
Ouais, mais ça, si tu presses haut, je crois pas
parce que au contraire, si tu arranges, à mon avis, si tu mets Gyökeres, enfin, comme ça, surtout en compo de départ.
Ouais.
Non, mais si tu mets en compo de départ, tu arranges presque pas de chaud dans le duel et dans la capacité à lui monter dessus. Alors qu'effectivement, la compo, même avec Trossard, Saka évidemment, et effectivement Havertz, que je trouve quand même énorme, peu embêter. Moi j'insistais sur ce côté gauche aussi, Trossard, enfin a priori si tu dis que c'est Trossard, par rapport à Hakimi, où j'en ai parlé hier, où vous avez Emery, mais bon, a priori c'est Hakimi qui devrait jouer, et moi ça m'intéresse aussi de regarder ce côté là parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités aussi pour Arsenal d'ailleurs.
Mais après, pardon, juste pour finir, Julien, après, on peut parler de toutes ces tactiques, de tous les coachs qu'on veut, etc. Si à un moment, c'est Mosquera qui joue arrière-droit pour Arsenal et qui se fait trouver par Kvaratskhelia pendant tout le match, à un moment, c'est aussi là que le match, il va basculer, ça, c'est sûr.
Ah, mais de toute façon, Julien, tu prépares, mais quand t'as autant de talent sur le terrain, Flo parlait il y a deux minutes de match de joueurs, je comprends parfaitement le concept, mais que la place soit plus ou moins réduite, que l'entraîneur travaille la tactique de façon plus ou moins fine, à l'arrivée, la donnée que tu ne maîtrises pas, tu peux au max maîtriser 70-80%. Vraiment, là, t'es au max du max du max. Mais après, le fait de jeu, la frappe qui passe juste à côté ou qui rentre, la frappe contrée. Rappelle-toi l'année dernière, justement Arsenal, l'arrêt miraculeux de Donnarumma au ras du poteau. C'est qui la frappe de qui d'ailleurs d'Arsenal?
Odegaard.
Bon bah voilà, au bout d'un moment, le joueur il fait la diff.
Non, après,
joueur talentueux, le dribble, encore heureux qu'il reste ça quand même.
Tout le monde en a parlé évidemment, mais il y a quand même un truc que le PSG, pour lequel on disait que c'était aussi un de ses points faibles et qui est un énorme point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Et ça, pour le coup, ce point-là, parce que finalement c'est le point
fort
d'Arsenal. Ouais, vous l'avez déjà dit, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que le point, pour le coup, ça s'est pas trop vu, je dirais, parce que Safonov avec ses sorties un peu particulières où il écarte le danger, ils ont pas été forcément spécialement mis en danger, mais ils n'ont pas rencontré une équipe aussi forte sur ce point-là.
Julien, merci beaucoup. Bonne soirée à Budapest.
Merci les gars.
Vous savez quel ancien international français vit à Budapest?
William Gallas,
c'est vrai.
Ah, bien sûr. Je t'avais pas raconté que je l'avais croisé.
Il est entraîneur de jeunes joueurs à Budapest.
Parce que je l'ai croisé à San Remo quand il est venu à l'invitation de Christian Carambeu, qui est devenu président du club, ça y est, en série D. Le projet COM à San Remo prend de l'ampleur avec beaucoup de Français sur place et Carambeu président.
Voilà. Je parlais au départ de Budapest et de Gallas, on en est arrivé à San Remo, c'est fou.
Bah, Gallas était là et c'est là qu'il m'a raconté sa vie. On bossait ensemble avec William.
Sache que San Remo dans quelques années, ça peut m'intéresser.
Bah, tu devrais plutôt y aller maintenant alors, parce que c'est là qu'il commençait à avoir les billes. Hein.
Ouais, mais là, et s'il prend Carambeu, il veut venir Gallas et tout, Kevin Diaz, il le calcule
pas. Gallas vient pas, il était juste là en visite pour ses amis.
Je l'ai vexé, je crois.
Mais en plus, sans Remo, j'ai fait du vélo avec Daniel Riolo juste derrière le stade, là, la petite piste cyclable.
Le projet est intéressant, c'est maintenant qu'il faut se lancer parce qu'ils ont un gros projet.
Pour l'instant, j'ai un gros projet, j'ai un gros truc.
Ah, d'accord.
Tu le raconteras. Merci Julien, bonne soirée.
Merci les gars, à demain.
Dans un instant, on continue le débat autour d'Arteta parce que c'est l'avis de Kevin du soir. Et puis ensuite, la cote de popularité de Mbappé qui semble en hausse. Dans quelques minutes, on vous raconte tout ça.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h36, messieurs, dames, Daniel Riolo, Kevin Diaz, Florent Gautreau sont là, Mbappé au programme tout à l'heure, Neymar également après 23h. On va aussi parler du barrage, retour de demain soir entre Nice et Saint-Etienne. Mais là, tout de suite, Kevin veut nous parler d'Arteta. Jingle, Kevin Diaz.
Pour moi, il y a hors-jeu. Hors-jeu d'une épaule. Là, je pense que tu peux faire confiance à mon Hawkeye. Et l'épaule, elle est en effet en avant.
Le but va être accordé. 2-1 pour le Félicien.
et pour les Stéphanois, il y avait bien hors-jeu.
J'adore. C'est un des plus beaux, celui-là.
Ouais, c'est vrai qu'il est beau.
Je continue de penser qu'il y avait hors-jeu.
Très bien. Bon, écoute, tu t'es convaincu, après
c'est
tout.
Pas de problème. Ouais.
Qui est voilà. convaincu.
Il y en a plein qui, notre match.
Il y en a plein qui pensent que les États-Unis et les Américains ne sont pas allés sur la Lune. T'as le droit de penser qu'il y avait hors-jeu.
C'est le match de Saint-Maur. Dans le foot, on connaissait Sacchi, le match de Fousignan. Nous, c'est Kevin Diaz.
Il y avait un coach, tu connais le grand Carlos Secretario qui a joué à Porto, au Real Madrid aussi, qui était mon coach à Saint-Maur quand j'ai fini ma carrière et qui m'appelait un peu la sorcière parce qu'il disait qu'à chaque fois que j'étais pas là, l'équipe elle gagnait pas. Donc il m'appelait au blouche. Voilà. C'est pas le match, c'est la sorcière.
Super, c'est une vraie anecdote. Hein. Parce que là, on tient un truc.
On peut remettre le jingle du coup.
Ah non, laisse tomber. Tu passes un peu pour un con quand même. Donc, tu voulais parler d'Arteta, pourquoi?
Ouais, Mikel Arteta, parce que on avait suivi notamment sa première saison grâce à l'excellent documentaire All or Nothing de Amazon Prime à l'époque. Et on avait vu comme quoi c'était très très difficile, bien sûr, la succession, même si c'était pas le successeur direct, mais l'ère post-Wenger avec un club qui était vraiment en pleine dérive.
Tout simplement de s'affirmer parce que beaucoup avaient essayé.
C'est un avis tranché, Daniel. Qui dit avis tranché dit au moins une minute.
C'est un monologue.
Au moins une minute trente. Bah, c'est un peu la base de ton émission.
Laisse-le faire son avis en entier quand même.
Merci.
Toi, quand tu t'es coupé, tu cries sur tout le monde.
T'es fiscaliste ou quoi?
Je suis néerlandais. Donc la règle, c'est la règle. Et donc je disais que Mikel Arteta avait eu beaucoup de mal au début, notamment avec des joueurs qu'on connaît aujourd'hui en Ligue 1, comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui était le plus gros salaire de l'histoire à l'époque du club, et avec qui il avait eu des soucis. Et il avait dû taper du poing sur la table. La direction l'avait soutenu et on voyait très bien l'évolution d'un jeune entraîneur. Et il lui a fallu plus de 6 ans pour arriver à gagner ce titre de champion, même s'il avait gagné une cup assez rapidement. Il a été très très vite mis en difficulté, comme beaucoup de jeunes managers, où on l'a remis en question sur sa légitimité en tant que numéro 1, etc. Mais le club a fait le bon choix de le soutenir. Et il y a une image qui va plaire à Daniel, pour le coup, parce qu'il vient d'en parler tout à l'heure. Et en fait, j'ai vu une séquence où Arteta avait une feuille. Tu sais, ces espèces de feuilles qu'on te montre chez le psychologue, où c'est une image que tu peux voir de plusieurs façons différentes. Mmh. Et en fait, la feuille, c'est soit tu vois un lapin avec ses oreilles, soit tu vois, je crois, une tête de félin ou en tout cas un oiseau. Soit tu vois un oiseau, soit tu vois donc un lapin. Et en fait, Arteta disait que, et c'est un peu ce dont je m'inspire à mon petit niveau, c'est qu'en fait, quand t'es dans un club, quand t'es responsable d'un club, alors bien sûr, tu n'es pas tout seul, mais toi, ton idée, c'est que tout le monde dans le club voit la même image. C'est-à-dire que si toi, tu veux que tout le monde voit un lapin, il faut que tout le monde puisse avoir les arguments, avoir la façon de travailler pour voir la même chose et viser dans la même direction avec la même énergie. Parce que si tu commences à avoir des dissensions, c'est compliqué. Et je trouve que Arteta a eu beaucoup de mal, mais ça a été un exemple, et je pense que c'est un exemple de ce que doit faire un grand club. C'est-à-dire, quand tu choisis un manager, bah, il faut le soutenir. Il faut aller jusqu'au bout avec ses idées. Bien sûr, il y aura des moments où le bateau va tanguer, mais en tout cas, il a montré qu'il a réussi à le faire, et franchement, bravo, parce que il a souffert, je pense, et aujourd'hui, c'est une belle récompense. Mais je ne l'appellerai pas du tout Boring Arsenal, je l'appellerai Loving Arsenal.
D'ailleurs, on pourrait s'amuser un jour à faire la liste
pas du tout,
des clubs où tout est bien rangé. Il n'y en a pas tant que ça. Puisque là, on a en finale de la Ligue des Champions deux clubs qui incarnent ça parfaitement.
Le Bayern,
c'est plutôt bien rangé. On pourrait faire une liste. Et
les clubs aussi où c'est très mal rangé, comme Chelsea.
Exactement,
quoi.
On ne sera pas étonné de constater que c'est ceux qui ont ensuite des résultats.
Chelsea, c'est le syndrome de Diogène. Tu sais, il y a trop de trucs, ils n'arrivent pas à se séparer, ils n'arrivent pas à jeter.
Tu veux dire comme quand ta cave est pleine?
Voilà.
Et que tu dis, mais en fait, tout ça pourrait finir à la poubelle, parce que jamais plus
je l'aurais utilisé. Mais tu jettes jamais, en fait. Sauf que le syndrome de Diogène, c'est leur cave chez eux.
Ça, c'est chaud, ça.
C'est un truc de fou.
Je sais.
C'est une maladie qui est très, très dangereuse, même.
Il faut savoir se séparer.
Mais par exemple, Arsenal, s'ils avaient insisté avec Unai Emery, ça aurait pu marcher aussi.
Bien sûr.
Mais ils avaient manqué de patience.
Parce que tu crois qu'au PSG, si on avait insisté avec Unai Emery, ça aurait pas marché.
Thomas Tuchel, pareil.
Tuchel, pareil, mais pour. Il faut l'installer, le coach. Il faut l'installer. Il y avait encore ce matin, puisqu'il y a une belle série d'ailleurs dans l'équipe, sur les équipes qui ont gagné deux fois de suite. Ce matin, c'était le tour du Milan de Sacchi. On a expliqué l'histoire que tout le monde connaît, quoi. Quand Berlusconi a dit au vestiaire qu'il voulait pas de lui au début, entre l'équipe et lui, je vais choisir lui. Là, tout le monde a même Van Basten le premier, ils ont tous arrêté de chouiner, quoi. Mais à un moment, si t'as pas, et pour Emery, on l'a lâché. Tuchel, quand il dit ici, il faut faire de la politique, il faut pas entraîner, voilà. Au bout d'un moment, tant mieux. C'est Luis Enrique qui en a bénéficié, qui a pu installer sa méthode et qui réussit aujourd'hui, c'est très bien. Mais des bons coachs, il y en a plus qu'on le pense. Sauf qu'après, il leur faut le contexte et
il leur faut la chambre. Alors, chambre bien rangée.
C'est marrant, il y a un truc que vous avez pas souligné sur les deux coachs là. C'est quand même, c'est incroyable le nombre d'Espagnols maintenant là. Emery, vainqueur de Coupe d'Europe. Là, Fabregas. Ça va être un Espagnol.
Ouais.
Fabregas avec Co.
Il y a une vraie école.
Il y a eu à un moment une hype portugaise. Et là, c'est les Espagnols.
D'ailleurs, à ce sujet, tu me fais penser à. Je sais pas si vous avez vu l'interview d'Unai Emery il y a deux jours, où il parle de Luis Enrique et des autres coachs, justement un peu dans ce contexte d'école espagnole. Et il y a une phrase qui, à la fois, m'a fait un petit peu de la peine parce que oui, je pense qu'il est victime d'une injustice lui-même et qui traduisait un peu de somme chez lui, mais un somme que je trouve justifié. C'est, il dit, Luis Enrique est un grand coach, Arteta, machin, ci, cela. Et le journaliste lui dit, vous venez de gagner l'Europa League, vous avez un parcours, hein. Et il répond, non, moi, c'est que de la chance, que de la chance. Mais la façon dont il le dit, c'est genre, écoutez, je sais que moi, j'ai pas le tampon catalan. que moi, en gros, c'est pas la méthode intellectuelle, machin. Il y a quand même ça aussi dans le football aujourd'hui. Il y a des mecs qui ont, bah, comme on dit dans le milieu du cinéma ou artistique, qui ont la carte.
Oui.
Il y a des coachs, quoi. Et Emery, moi, à mon sens, a toujours été sous-estimé. Oui, mais considéré un peu moins. D'ailleurs, il a tellement été méprisé quand il est venu au PSG. On disait qu'il s'agitait trop, qu'il parlait pas bien français. Luis Enrique, on n'y a jamais rien dit sur son accent. Unai Emery, quand il a essayé, on se foutait de ta gueule, on l'a
proposé. Ouais, mais
il avait un côté
trop gentil. Tu vois, là où Luis Enrique impressionne et ouais. a quand même une espèce de carrure et de prestance.
Donc, aussi on est dans la com, alors.
Ah, mais bien sûr.
Évidemment.
J'allais te dire, l'allure qu'il a. Ouais, l'allure qu'a Fabregas.
J'arrête pas d'en parler de ça. On rigole quand je parle de ça.
Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que Compagnie. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais bien sûr que l'allure de Compagnie, ça parle à ces joueurs-là. Ça parle à cette génération.
Pour Luis Enrique, c'est différent parce que c'est pas l'allure vraiment, c'est plutôt le charisme.
Oui, c'est l'un ou l'autre.
Parce que vous parliez de l'allure de
Compagnie. Ça rentre l'un dedans.
Oui, je suis d'accord. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis sur Arteta.
Mais vous n'avez pas l'impression quand même qu'il a été.
Si, mais il a un manque de sous-estime. Il a un manque de charisme.
Et qu'encore aujourd'hui, ouais, il en est quoi, 5 Europa League. Ouais,
mais t'as vu,
l'année dernière, son parcours en Ligue des Champions, je répète que c'est peut-être une des équipes avec pourtant moins de vedettes qui a fait le plus souffrir le PSG.
En fait, ils ont une équipe quand même.
En fait, Unai Emery, c'est, je pense, en lisant l'interview, je me suis fait un peu la même réflexion que toi, et je pense que son seum, entre guillemets, c'est parce qu'il n'est pas dans un très grand club. Et qu'il s'est dit, oui, ok, je réussis, et je gagne, la preuve, et ça, personne ne peut me l'enlever.
Mais on l'a tenté.
Oui, mais
est-ce qu'il n'y a pas des entraîneurs qui sont faits pour des clubs, voilà.
Mais est-ce qu'on lui a donné au bon moment les deux clubs?
Non, mais je sais pas. Mais ça, lui, parfois, c'est aussi à toi de t'imposer et d'avoir la chance de le faire avec tes dirigeants. Pour revenir à Arteta, justement, à la fois, évidemment, je suis d'accord avec Kevin sur le côté.
Il n'y avait pas Luis Campos. Hein.
Sur le soutien et sur la durée, parce que c'est ça qui fait la différence. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc supplémentaire cette année, c'est le fait d'avoir su résister dans le moment où on a cru que City allait revenir et qu'ils allaient une nouvelle fois pas savoir et pas pouvoir le faire. Parce que s'ils sont en mesure de challenger là, dans l'avant-match PSG-Arsenal, de se dire que Arsenal peut le faire, c'est en partie aussi parce qu'ils sont champions en Première Ligue. Parce que s'ils n'avaient pas été champions en Première Ligue, ça aurait été une autre histoire.
Et là,
je trouve que donc, psychologiquement, en dehors de tout ce qu'il a montré, ce qu'on a vu dans le doc, ce qu'il a montré sur le terrain, de ce côté assumé aussi sur ses coups de pied arrêtés, ce style de jeu, etc., que je trouve très bien, il a psychologiquement aussi su, on va dire, maintenir la confiance des joueurs à leur plus haut niveau à un moment où ça tanguait, comme tu disais. Et ça, c'est un autre de ses
aspects. Demain soir, on sera en veille de match. On a plus le temps, Kevin. Daniel sera dans l'after, d'ailleurs, pour analyser les compos de départ et tout. Nos reporters seront sur zone,
c'est vrai,
notamment Fabrice, Jean-Louis Tour. Ce sera demain soir dans l'after.
Gilbert, pour finir.
Demain matin, il part demain matin.
Pour finir sur le sujet Mikel Arteta, même s'il n'avait pas gagné l'APL, j'aurais pas pensé qu'il pourrait pas le faire l'an prochain. Pour moi, ça aurait pas été le loser éternel, non.
Ça aurait été
celui qui continue
jouer
de construire et ça aurait fini par payer. Parce que quand tu travailles bien, et comme t'as dit Daniel,
là,
tu as
chambre bien rangée. Historique. Ils sont un peu portés quand même.
Ça, dans un instant, Kylian Mbappé dans l'after. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner dans le cadre de notre grand jeu de la liste des 26. Gagner 10 000 euros ou bien le fameux pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel des Bleus. Et alors, j'ai découvert un truc aujourd'hui, parce qu'on a parlé le jour de Playmobil. J'ai découvert le trophée de la Coupe du Monde dans Lego. Bah franchement, il est pas mal.
Ouais, vous pouvez le gagner. Mais Lego, cette année, c'est la folie. C'est eux qui ont fait les pubs avec Messi,
Ronaldo.
Tu sais qu'ils sont évidemment pas venus en même temps pour le tournage. Ils sont tous venus à des moments séparés pour ce tournage-là de la pub.
Mais
la pub, elle est incroyable.
C'est un film, Lego. C'est un film carrément d'1h30 où t'as des Lego animés. Ouais,
c'est pour les mômes, Flo.
Non, c'est pas mal.
Ah, c'est pour toi, t'as regardé ça.
Moi, je suis sûr, pas de chien tombé en enfance.
T'es un enfant, toi.
Ouais.
Et donc, tout à l'heure, vous entendrez l'alerte et vous pourrez jouer. Bien sûr, restez à l'écoute. Faudra envoyer liste par SMS au 732-16 pour gagner tous ces cadeaux. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h50. Daniel Riolo, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. On veut parler un peu de Kylian Mbappé. Roland Garros nous appelle peut-être. Ça fait un moment qu'on n'y a pas été. Il faut faire un petit point quand même.
Oui, Gilbert, ça sent presque la fin pour Arthur Hinderknecht qui a déjà sauvé deux balles de match. On est sur le service de Berrettini, 5-4. Nouvelle balle de match à suivre pour l'Italien. Et sur le court 7, Luca Van Aché est breaké dans la cinquième manche, 4-2 pour Nakashima, l'Américain qui est tout
avantage Berrettini.
Elle l'a bien prononcé. Kylian Mbappé. Alors, évidemment, Kylian Mbappé fait débat parmi les supporters du PSG depuis des mois et des mois, fait débat également en Espagne, dans les médias d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, au Chiringuito, par exemple, il y a quelques bien éditorialistes sûr. Qui avaient demandé son départ immédiat, que c'était pas possible, etc. Il y a quelques leaders d'opinion en France aussi qui, on va dire, allument régulièrement Kylian Mbappé. Julien Cazard, suivez mon regard.
Non, mais il n'est pas leader d'opinion football.
Il parle de foot quand même. Bah là, en ce moment, il parle plus de Roland Garros. Mais puis, il écoute l'after. Mmh. Donc, bah, il est leader dans son genre, Julien.
Bah, non, mais il faudra que tu me dises les journalistes qui le taillent qu'à hauteur de ce qu'on voit à droite à gauche sur les réseaux. Il n'y en a pas tant que ça, en fait.
Bah, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui...
Il y a des débats qui peuvent être très intéressants sur son niveau, sur sa com, sur son positionnement, sur des échecs clairs chez lui.
Enfin, c'est plus des médias, des journalistes espagnols, en l'occurrence.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux gangrènent tellement les cerveaux qu'ils te cataloguent, ils te mettent dans des cases. Alors que moi, je peux très bien avoir une discussion tout à fait claire et nette sur son niveau actuel, ce qui s'est passé au Real et tout. Mais si tu ne dis pas, c'est un bidon, il est mauvais, c'est un handicap, c'est une gangrène pour une équipe, tu deviens un pro lui. Le problème, c'est quand le débat devient comme ça. Et pour te dire la vérité, quand j'ai vu le résultat de ce sondage.
Alors, il y a plusieurs sondages d'ailleurs.
Moi, oui, mais quand même, quand il y a un vote et que les supporters sociaux du Real le désignent meilleur joueur de l'équipe cette année. Et évidemment que dans le marasme de l'année au Real, bah oui, c'est le meilleur joueur parce que finalement t'as pas grand chose à te mettre sous la dent de plus. Et c'est même pas
meilleur buteur en Espagne.
Et c'est même pas une énorme récompense pour lui parce que le Real a fait une très mauvaise saison. Moi, je te dis que les chiringuitos et tout ça, ils sont juste les avant-gardistes d'une grande tendance. Qui va pousser certains journalistes ou chroniqueurs ou autres à devenir les esclaves des réseaux. Parce que résister à ses opinions et ses algorithmes va devenir toujours plus compliqué. Parce que céder à la pression, moi je le sais, parce que je le vis très régulièrement. Je donne, alors en plus, souvent, on est même responsable de ces choses-là, parce que nos phrases sont découpées par nos propres CM, on est nous-mêmes les jouets des clics qu'on doit faire, donc après, on se fait pourrir pendant des 24-48 heures sur des trucs qu'on n'a pas dit ou à moitié, que ce soit sur des joueurs de foot, sur tous les sujets. Et moi, je te dis qu'il y a plein de journalistes qui vont avoir leur opinion influencée. Moi, quand je vois aujourd'hui, donc il y avait deux enquêtes. Il a reçu le trophée 5 étoiles de Marca.
Voilà, donc ça, c'est élu meilleur joueur du Real par les supporters.
Quand t'entends ce qu'ils disaient au Chiringuito, les sifflets du Bernabéu, les critiques de partout, les réseaux 100% contre. Enfin, c'est quand même délirant qu'à l'arrivée, il soit désigné. Tu dis, c'est pas possible. Au moins, Vinicius devait lui passer devant.
Non, le seul qui pouvait lui passer devant, c'était Valverde.
On est d'accord.
Et puis après, il y a eu l'affaire avec Chiellini.
Sauf que ça, c'est une réaction sensée, celle que tu viens d'avoir. Mais c'est pas ce qu'on a autour de Mbappé. On n'a rien de sensé. On n'a pas les bémols de Flo Gautreau. On n'a rien. C'est soit t'es un bidon, soit t'es son laquais. D'un côté, c'est hallucinant.
Est-ce que tu peux entendre que toi aussi, tu attaches beaucoup d'importance au réseau? Puisque tu, sans cesse, tu cites. On sait que les gens sont allés à 80 à 90% négatifs sur les réseaux. Ce ne sont pas des gens.
Aujourd'hui,
en tout cas, ça dépend le réseau.
Sur un réseau qui est X, parce que les autres réseaux.
Aujourd'hui, on parle du réseau.
Si aujourd'hui.
Instagram, ça va.
Instagram, c'est très
bien. Si aujourd'hui, on ne combat pas ce mode de faire, ce que va être capable de faire l'intelligence artificielle, de transformer tes propos et tout ça, notre métier, on est mort.
Non, mais j'ai bien compris.
On est mort.
Mais X, si c'est pas la vraie vie quand même.
Si tu ne te bats pas pour introduire de la nuance, pour ne pas être renvoyé forcément,
Mais tu veux introduire de la nuance avec des extrémistes?
Pardon?
C'est très difficile d'avoir de la nuance avec des extrémistes. Et sur les réseaux, malheureusement, il y a beaucoup d'extrêmes.
Mais t'es obligé de combattre ça. Mais là, parce que je te dis qu'il y a, si tu faisais un débat avec le mec du Chiringuito, moi je te dis que ce gars-là, il a été influencé, il a répété ce qu'il disait sur les réseaux. Et sur ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, tu as des institutions qui mettent en place des armées.
Non, mais ça, d'accord, Daniel.
Tu es obligé d'y faire attention.
Attends, quand on dit les réseaux,
tu dois y faire attention. Mais c'est X, principalement.
Voilà, parlons de X, parce qu'il faut quand même les citer.
Oui,
X.
Oui, mais
X,
TikTok, quand même été... TikTok propage également plein de petits extraits.
Par exemple.
Plein de petits extraits.
Ou...
C'est simple. Moi, sur le match Bayern, parce que moi, je me plains toujours de quand c'est à mon désavantage.
Bayern Real?
On a coupé des bouts. Sur le Bayern PSG. je croisais plein de gens et tout, ils disaient waouh, fantastique ton prono, t'avais dit un partout. Putain, je me suis cassé la tête. Mais à quel moment ils disent que j'ai dit un partout, machin et tout. En fait, non, ça avait été découpé d'une façon. J'avais dit il y aura deux buts dans le match. Hein, c'est n'importe quoi. J'avais pas dit ça. Mais Daniel, je m'en foutais de l'avoir dit ou pas. Je suis pas un pronostiqueur professionnel. Souvent, on le fait pour se marier.
Les gars, on voulait parler de Mbappé. On est en train de parler des réseaux sociaux.
Mais on dévie pas parce que c'est la vérité. C'est ce que t'as dit, Gilbert. Il y a quand même des réseaux.
Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Et il y a ce qui se dit sur Mbappé de négatif sur les réseaux sociaux. On constate dans un sondage clair que, en fait, c'est pas la réalité.
Il y a des rafales algorithmiques que tu prends dans la tronche qui sont incroyables.
Mais c'est aussi vrai. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les réseaux. C'est notamment un réseau qui, notamment depuis que ce nouveau propriétaire,
Elon Musk,
il fait exprès, qu'il veut. Salut. Il veut du clic, il veut des gens final, qui ne sont pas.
Mais on tombe dedans, puisque les clics, on les poursuit dans les médias. Les médias, les poursuivent, les clics.
Non, oui,
il y a 24 heures, je me suis fait pourrir pour une phrase découpée. Et c'est nous qui le faisons nous-mêmes.
Oui, mais t'as été pourri par qui? Par des gens qui représentent les extrêmes.
Sur Insta aussi.
Les gars,
oui, mais bon.
Alors, proposition.
Oui, moi j'avais.
Et si l'After Foot quittait X?
Ah, mais moi je serais d'accord.
Moi non. Non, moi
je suis pour le combat.
Moi je réponds, une sorte de combat. Non, dis, bah, nous, on cautionne pas ce qui se passe.
Je ne refuserai jamais le combat contre.
Non, mais c'est pas le combat, mais là c'est le combat contre
des gens qui ne veulent pas combattre.
Il n'y a pas qu'une histoire de combat.
Moi je pense qu'on s'en porte très bien.
Il n'y a pas qu'une histoire de combat. Moi je suis pas d'accord avec ce.
Après, je vous parle pas de vous personnellement,
si
vous voulez.
Oui, mais justement, mais moi la façon dont je fonctionne avec X, puisque je suis sur X depuis très longtemps, et Twitter avant évidemment.
C'était quand même Twitter, Flo.
Mais non, mais c'est pas le problème. Moi, je veux dire juste que
c'est le problème.
Quand il y a quelque chose de très agressif, je réponds dans un premier temps. L'agressivité descend de 90%. C'est comme dans la rue. Et ensuite, tu peux engager un débat et les gens te disent ah, ok, j'avais pas bien compris. C'était un extrait, c'est un machin. Et après, il reste effectivement 5, 7, 8% de gens qui veulent rien comprendre. C'est pas très grave. Et je trouve que ça reste quand même un lieu où on échange et où on débat. Et le deuxième point, c'est pas parce qu'il y a eu ce débat. Alors, c'est intéressant de voir que les gens ont voté pour Mbappé en disant que c'était le meilleur joueur de la saison. Mais moi, c'est un peu l'inverse. J'ai envie de dire, moi, je suis surpris que des gens, là, je reviens au fond du truc, que des supporters aient voté pour Mbappé cette saison, parce que je dis que, ok, il a des stats, mais c'est dans ce cas-là aussi des supporters un peu footix qui regardent les stats et qui voient pas bien ce qu'il y a dans leur club.
Vous l'avez
dit.
Ça, c'est vrai aussi.
Mais moi, je veux revenir au fond du débat, parce que l'histoire des réseaux, je suis d'accord, on le sait, les armées numériques et compagnie.
On ne parlait pas de ça. Là, on parlait. D'abord, on regarde. Vu la saison catastrophique, c'est pas complètement dingue que ce soit lui qui soit désigné.
C'est pour de mauvaises raisons, c'est pour ça que je veux dire que moi j'ai envie de juger aux
États, on va dire que c'est le moins pire.
Et puis ok, il marque des buts, mais t'as envie de dire aux gars, t'as pas des joueurs plus importants, tu vois, dans votre équipe.
En l'occurrence, au Real, non, il n'y avait pas cette année.
Si, Valverde a raison,
donc on est sur un débat à deux, ça va.
Non, mais c'est pour ça que
je connais pas la différence de vote avec Valverde.
Non, mais on peut critiquer ce que veut dire ce sondage.
Par rapport à l'expression de la haine, on n'était pas du tout à imaginer que ça puisse être ça le résultat, c'est ça que je veux dire.
Moi, c'est pas un truc qui me surprend. Par rapport aux supporters du Real.
On reprend. Mbappé va être plutôt
sur ce côté un peu foot.
Avec feuilleton, il a mis 50 buts, donc il est le meilleur.
On peut ajouter aussi qu'il y a énormément de. Pourquoi c'est la pub, là ?
Ouais, pour conclure, vas-y.
Non, parce que je voulais également parler, par exemple, je crois que c'est ce week-end qu'il va y avoir interview de Mbappé.
Attends, parce que si tu repars sur un développement, je préfère qu'on fasse la pub et qu'on reprenne ensuite. Parce qu'il est quasiment 22h59. On se retrouve donc tout de suite dans l'after. On parlera aussi de Neymar et de sa situation dans quelques minutes. Du nouveau coach de Monaco et du barrage retour de demain soir entre Nice et Saint-Etienne.
RMC. Tant qu'on ne perd pas, on est content, mais tant qu'on ne gagne pas, on n'est pas heureux.
Pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres.
Au nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon ! Bordel !
Je sais pas où on va repartir, mais on nage et dans le bonheur.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h02, Daniel Riolo, Kevin Diaz et Florent Gautreau sont là. Avant de parler du barrage, retour de demain entre Nice et Saint-Etienne, avant de parler de Neymar, de Felipe Luis, on conclut notre débat autour de Kylian Mbappé. Alors, il y a un autre sondage aussi dans l'équipe, hein, vous avez vu, on a demandé au suiveur du foot, qui est aujourd'hui, selon vous, bien placé pour le Ballon d'Or à ce stade de la saison. Dembélé arrive en premier avec 32%, deuxième, Kylian Mbappé.
Ça aussi,
18%. Devant Kvaratskhelia, Olysée, Yamal, Kane, Salah et autres.
Qui a voté? C'est un sondage.
Suiveur du foot.
Suiveur du foot, quoi. C'est. Ouais,
suiveur du foot, moi, ça m'intéresse de savoir le nom et qui. Parce que.
Est-ce que c'est des fans hardcore du foot?
Ouais,
est-ce que c'est.
D'accord, c'est le nombre, etc. Parce que là, on est. Je fais la même réaction que par rapport au sondage là, précédent et par rapport aux joueurs de l'année au Real. Ce genre de truc, oui, tu mets des noms comme ça. Si tu demandes à ma femme, est-ce qu'elle pense.
Panel de 1000 personnes.
Te dire Mbappé, tu vois. Bon, mais si à l'inverse, t'as des suiveurs.
Mais après, on peut pas tout le temps mépriser tout le monde.
Pourquoi Daniel, t'es un peu dans cette lutte où à chaque fois qu'il y a un truc positif sur Mbappé, t'es là à le noter comme si la France entière détestait Kylian Mbappé. Faut pas abuser non plus.
La preuve que non.
Il y a quand même des gens qui sont encore lucides et qui peuvent dire que potentiellement c'est le meilleur joueur du Real, mais que aujourd'hui t'as beau être potentiellement le meilleur joueur du Real, mais l'équipe du Real peut être moins forte avec toi.
Je pense comme toi.
C'est possible ça quand même.
Une fois de plus, je suis dans une sorte de combat contre ceux qui disent qu'ils vaut rien.
Non, mais personne.
Parce que ça existe.
Mais franchement, Daniel, il y a très peu de gens sérieux qui disent qu'ils vaut rien. Il n'y a aucun personne sérieuse qui dit qu'il vaut rien.
Daniel, sur une bonne pente.
Daniel, en disant ça, toi-même. En faisant ça, tu simplifies à outrance également le débat, je pense. Parce que je pense pas que les gens, à part une partie, encore une fois, infime, et ça, ils peuvent te dire, par exemple, et là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'objet de débat.
On n'a pas les mêmes algos.
Non, mais Mbappé est un bon joueur. Mais est-ce qu'on a le droit de se poser la question de savoir si c'est pas plus compliqué aujourd'hui pour un coach d'intégrer ce très bon joueur dans une équipe? Et avec qui le faire jouer et comment? Est-ce que c'est pas plus compliqué, par exemple, qu'avec Kvaratskhelia à Paris? Tu vois, par exemple.
Parce que tout à l'heure qu'il n'y avait pas de journalistes qui étaient vraiment virulents sur Mbappé.
Mais les débats, on les fait jamais.
Dans l'after, on les fait.
Non.
Roland Garros nous appelle.
Toujours pareil, les bidons.
Arnaud Valadon.
N'importe quoi.
Et deux éliminations. Rinderknecht battu par Berrettini 6-4, 6-4, 6-4. Et à l'instant, Lucas Van Hache a perdu en 5-7 face à Brandon Nakashima. 6-7, 6-4, 5-7, 6-1, 6-3. Il n'y aura donc que deux Français au troisième tour. Quentin Alice demain face à Sacha Zverev en session nuit. Kouamé jouera samedi. Et chez les filles, il reste que Diane Paris qui jouera pareil samedi pour le troisième tour.
Merci, bonne soirée. Alors sur le Real, concluons sur Mbappé et avançons un peu quand même, les gars.
Faut que je réponde.
Oui, mais vite fait
parce que c'est comme quand Pierre Sage est là l'autre soir, tu lui dis fais une compo de l'équipe de France. Il le met pas dans la position qui est la sienne aujourd'hui, donc il ouvre un débat sur cette question là et c'est exactement le débat qu'on avait déjà il y a deux ans où je disais mais moi j'ai aucun problème moi à reconnaître que ceci que cela et tout, vous le mettez pas, décidez une bonne fois pour toutes, vous le sortez pas.
Il y a très peu de gens qui le
disent. On veut pas d'Mbappé en équipe de France. Tu es conscient de ça quand même.
Donc il faut résoudre le problème. Et c'est là que le débat devient intéressant.
Mais c'est un très bon débat par rapport à Deschamps.
C'est pas souvent celui-là.
Mais le débat par rapport à Deschamps, par exemple, ça va être de savoir s'il est capable aussi de le redécaler côté gauche comme l'a fait Pierre Sage. Et ça, ce sera un bon débat.
Et là, la masse.
Est-ce que tu peux citer deux trois voix du foot qui ne veulent pas Mbappé en équipe de France?
Je vais pas.
Mais non, mais il y a personne.
On
a
ici. Bon, allez, concluons, les gars, s'il vous plaît.
Si. En revanche, autre chose, c'est qu'à un moment donné, lui également, à force de s'être coupé de la base des gens du foot, de ne jamais leur parler. Et c'est pour ça que quand j'ai vu, je trouve ça très bien pour Laurent Delahousse de faire dossier sur lui. Je sais pas quand est-ce que sort l'interview, ce week-end ou quoi. On a l'impression que maintenant, il faut forcément que ce soit interview dans un salon d'un hôtel de luxe habillé en Dior. Il y a que ça qui l'intéresse maintenant. Donc c'est Vanity Fair, Laurent Delahousse, il se prend pour le président de la République. Ça, c'est très gênant. Viens de salir et parle de foot.
Mais il vient en conférence de presse quand même.
Non, tu veux dire,
Ah, tu veux qu'il vienne dans l'after?
Mais pourquoi pas?
Mais il peut très bien qu'il aille donner une interview à l'équipe s'il doit la donner. Mais une vraie interview ou pas, genre, on te pose 10 questions et tu réponds à 10 questions sur le profil de tel joueur, machin, je vous raconte mon équipe de France ou machin. Vraiment, on va te les poser les questions sur ton positionnement, sur comment tu vois le foot et tout ça. À un moment, viens, t'es le capitaine de l'équipe de France, confronte-toi aux gens. Arrête de sans arrêt voir la vie par 10 000 conseillers en communication qui connaissent pas un mot de ballon et qui te disent tu fais ci, tu fais ça. Parce que cette espèce de lutte permanente sur ça va ou ça va pas. pas, où je dois jouer, où je dois pas jouer et tout. Il est en train de se couper de sa base.
Et ça, et Daniel,
toi tu dis on se laisse. Putain, c'est quand même le capitaine des Bleus. Ouais. C'est un sujet qui est inépuisable. C'est le capitaine de l'équipe de France. Et on est à 10 jours du début du mondial. A, pour moi, Daniel, c'est un sujet quand même.
Il y a un débat très intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, sur les, il va dans des médias. Il avait fait Élise Lucet, t'es envoyé spécial ou je sais plus lequel.
Mais c'est quoi ça,
non, mais l'émission de Mouhoud Dajour aussi, rappelez-vous.
Ouais, bien sûr.
Et il fait ça lui avait servi de rebond, ça.
Non, mais il fait ces émissions là parce que effectivement, ça lui permet. Il sait qu'on ne va pas lui poser la question de savoir s'il court pas assez sur les replis défensifs, et etc. Oui, voilà. Il n'a pas envie de répondre à ça. Et d'ailleurs, dans The Bridge, puisqu'il a participé, c'est pareil. Si tu regardes bien, on a dit ah c'est bien parce qu'il parle foot. Mais en fait non, parce que les mecs, évidemment, c'est là où il fait des journalistes aussi, puisqu'on dit toujours c'est super cette émission. Mais dans The Bridge, ils l'ont pas challengé quand il a commencé à vouloir endormir un peu tout le monde en disant mais oui, mais moi en fait j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose sur le terrain, comme si oui moi je cours maintenant. Alors qu'en fait il y a plein de questions qui se posent là-dessus, mais il a pas été challengé parce que c'est The Bridge et c'est des potes. Il est pas challengé par les journalistes hors foot parce que c'est pas leur terrain et qu'il y a même ce deal là entre guillemets, je pense, s'ils veulent aborder ce sujet. Et effectivement, comme dit Daniel, ça c'est un vrai sujet. Mais je pense que s'il le refuse, c'est que quand même il sait qu'il y a un souci là-dessus. Bon, c'est qu'il sait qu'il y a un problème sur sa façon de jouer.
C'est pas spécifique à Mbappé, pardon. Quand Didier Deschamps explique sa liste au journal de 20h, tu sens bien que toutes les questions, elles sont bien calibrées à l'avance et qu'on évite les sujets polémiques. Bon, malheureusement, c'est une tendance.
Comme on a dit récemment, quand on fait de la communication, essayons de se rapprocher le plus possible de la vérité, même si ça brûle un peu. Et quand tu y vas, Persa, c'est un bon exemple. Avant même son histoire
quand
de.
Quand tu y vas, on te le reproche également.
Ouais, mais quand. Donc, quand
par exemple, au 20h de TV, il n'y a pas une question sur Théo Hernandez, par exemple.
Ça, je suis d'accord. Mais quand tu y vas vraiment, Mbappé, là, sur ce sujet-là, le pire, c'est que je vais te dire le truc, c'est que moi, je pense que Mbappé, c'est ce que j'ai dit à tous les gens qui, des fois, refusent de débattre ou de venir à l'interview. Mais t'es très bon pour répondre à tout ça. N'aie pas peur.
Je pense qu'il est parfaitement capable de dire ce qu'il a envie sur un terrain. Et comment il voit le jeu et comment il est largement capable.
Et donc je pense que c'est une erreur de ces communicants de le surprotéger sur ces sujets-là parce que lui, il est capable de le faire.
D'une, t'as raison, il le protège, mais ensuite, tu vas aller que dans des trucs de luxe. Genre premium, genre Laurent Delahousse 20h30, c'est premium. Vanity Fair, c'est les salons, on va faire ça dans un hôtel, dans un palace. Et tu seras sapé en Dior. Mais ça, oublie pas qui t'es, oublie pas d'où tu viens, t'es un joueur de foot. Il y a les fans de, alors ok, l'équipe de France c'est
le Mbappé dans le supplément 9-3 du Parisien.
C'est 10 ouais, pourquoi pas. Bah c'est 10, 15, 20 en fonction de si t'es en 8e ou finale. Ok, très bien. Mais oublie pas les 2 millions qui constituent la base tout le temps, celles qui suivent le foot au quotidien, qui suivent le Real même quand ils sont en France, qui t'adoraient et qui maintenant trouvent que soit t'en fais trop ou qui comprennent pas réellement ton évolution sur le terrain et qui ont juste envie d'en parler avec toi et que tu vas leur expliquer ouais, moi j'ai du mal, mais en fait, si tu continues à avoir du mal, mais tu vas plus tellement y arriver en fait, parce que le foot, t'es pas réellement en phase avec ce que le foot est maintenant. Et t'es en train de te mettre totalement dos au mur dans cette Coupe du Monde, où c'est lui qui est finalement, avec sa mentalité, il est allé se coller dos au mur et s'est dit écoute, c'est soit maintenant, je vais être extraordinaire dans cette Coupe du Monde, je vais mettre les buts qui vont emmener l'équipe de France et tout. En fait, il est dans une stratégie, je vais fermer vos bouches. Mais c'est un risque énormissime.
Et c'est un risque d'autant plus grand que récemment en équipe de France, il a eu la qualité et l'intelligence de se repositionner sur le rôle de capitaine, de passeur, tu sais, pour ne pas tirer.
Et c'est vrai qu'il a été bon, dans ces matchs-là.
Mais quand il l'a fait, on l'a souligné à juste titre, et j'ose espérer que pour ne pas surjouer parce qu'il n'a aucun trophée cette année, il ne va pas vouloir sauver la patrie en marquant seulement. Parce que si Mbappé fait 7 passes décisives, moi ça me va très bien avec 0 but.
Flo, je te dis qu'il s'est mis dos au mur, il doit être extraordinaire là pendant un mois.
Mais extraordinaire, je vous renvoie sur le podcast dédié à l'équipe de France, sur le 48 podcast. Vous savez qu'on a 48 podcasts en ligne sur chaque nation pour vous les présenter. Et donc vous pouvez
écouter ça dans l'avion.
Vous pouvez écouter ça dans l'avion, exactement. 48 fois 26 minutes. On peut dire que c'est pas mal. Mais théorie intéressante développée par Fabrice Hawkins dans le podcast dédié à l'équipe de France qu'on a enregistré cet après-midi. Lui, il dit, finalement, la Coupe du Monde qui vient, pour Mbappé, elle est hyper importante parce que s'il veut marquer l'histoire du foot comme c'est son ambition.
C'est ce que je viens de dire,
Ce qu'avait dit Walid aussi.
Il va un peu plus loin parce qu'il dit, finalement, il ne gagnera jamais le nombre de ballons d'or ou de Ligue des Champions de Messi ou Ronaldo.
Non, ça bien sûr, mais ça, eux, ils ont emmené le foot dans une autre galaxie.
Donc en fait, le truc qui lui reste, alors que sa carrière est loin d'être finie, a priori, à Mbappé, le truc qui lui reste maintenant, c'est les Coupes du Monde.
Non mais d'accord.
Il a déjà une victoire, une finale, il a 27 ans,
la Ligue des Champions.
Non mais que vous avez tout oublié, c'est qu'il peut battre le record de Klose là.
Oui, non, oui. Mais il y a pas de
ça, justement, moi, cette histoire de but, ça m'inquiète. Oui. Non, mais moi, ça m'inquiète plus, cette histoire de but. Moi, je veux voir un Mbappé qui fait pas que marquer des buts, qui fait des passes. Ouais, mais ça, Gilbert, c'est le vrai problème des stats. Si Mbappé se dit.
On est à 12.
Oui, mais si Mbappé se dit, je veux battre le record de Klose. C'est le meilleur
pour Chirac.
Non, mais Gilbert, on s'en fout de ça. Oui, il va le battre, mais on s'en fout.
Mais moi, pour moi, le maître.
Gilbert, j'ai grandi avec Juste Fontaine et ses 13 buts. Mais ça reste dans l'histoire.
Non, sauf que. Sauf que tu vois, c'est très intéressant.
Tu restes dans l'histoire jusqu'à ce que quelqu'un te dépasse.
Oui, non, puis
Juste Fontaine, c'est sur une Coupe du Monde.
Vous n'allez pas refaire les livres d'histoire. On a grandi avec Juste Fontaine et ses buts, avec Pelé, son nombre de buts.
C'est pas ça qui te dit, c'est autre chose.
Non, moi, je te dis juste. Moi, je me sens quand j'étais petit, par exemple, c'est toujours pareil, ces histoires de stats et tout, ça me fascinait. Quand Platini a mis 9 buts dans l'Euro, ça me fascinait. Moi aujourd'hui, je te dis que si Platini avait mis 6 buts et qu'il avait fait 5 passes des 2 plus, ça m'aurait moins fasciné à l'époque, alors que quand j'ai grandi, j'aurais été plus hypé par ça. Je dis juste que si Mbappé ne s'intéresse qu'à ça, et je pense pas que ce soit le cas, à battre le record de Klose, on s'en fout.
Il a mis les 9 buts et c'était le patron de l'équipe.
Oui, voilà, en l'occurrence, il faisait tout. Voilà, mais là, Mbappé, le vrai débat pour lui, c'est que s'il veut gagner, faut pas qu'il pense juste à ses stats, faut qu'il pense, comme il le dit en tout cas, à faire gagner les Bleus.
Oui. Quel que soit son rôle dans lequel il évolue, même, je dirais. Et aujourd'hui, tu parlais du podcast sur l'équipe de France, mais pour moi, mettre Mbappé dans une quelconque comparaison avec Messi et Ronaldo, pour moi, c'est hors de propos. Il n'y a pas à le mettre dans une quelconque comparaison avec Messi et Ronaldo. Non, sûrement pas. Parce que ça, c'est ce genre de comparaison qui sont, qui lui font du mal, en fait.
Non, c'était des exemples pour dire que, en
fait. Oui, mais même les exemples sont pas bons.
Il y a des joueurs qui ont des palmarès dans certaines compétitions que malheureusement, il aura du mal à égaler.
Mais c'est pas grave.
En fait, pourquoi je
regarde ça? Il sera jamais ce genre de joueur.
Ces deux joueurs-là, suite à leur domination extraterrestre, il y avait un joueur plus un autre joueur qui était censé être dans la même galaxie. Un, Neymar, et ensuite Mbappé.
C'était pas plus Mbappé Haaland dans un tout autre style
pour ça, faire c'était une plus rivalité. Les stars, mais Neymar était, on va dire, le gars dont on attendait pareil et tout. Et bon, pour plein de motifs, il l'a pas fait. Mais en fait, c'est juste que, peu importe, tu l'as fait ou tu l'as pas fait. C'est juste que les deux, bon bah voilà, les deux, c'est comme on a parlé au début de l'émission du tennis. Les deux, c'est Djoko Nadal Federer. On s'est tiré la bourre toute une vie, on a fait quelque chose que peut-être jamais plus personne ne fera. Et tout le monde dit Sinner, Alcaraz vont les dépasser parce qu'ils en sont déjà à 4 ou 5 à leur âge et tout. Mais est-ce qu'ils en ont réellement l'envie? Des fois, je me pose la question sur Alcaraz, est-ce qu'il aura
réellement le niveau
ou même le physique? Non, le niveau, je pense que oui, mais l'envie.
Non, mais le niveau, on se rend pas compte. La performance, c'est la récurrence.
L'envie qu'il faut avoir pour être récurrent dans la performance.
C'est la mentale, quoi.
C'est là, oui, exactement.
La résilience mentale.
On a bien vu qu'il avait pas cette envie-là. Et Mbappé, le temps est en train de passer. Il a pas tout bien fait, tout bien géré. Il s'est pas retrouvé au meilleur endroit.
Lui, il a envie.
De par son fait.
Mais est-ce qu'il a envie de faire ce qu'il faut pour?
Exactement. Exactement.
Tiens, je conclus sur un petit mot sur le Real parce que vous savez que les Barcelonais chambrent à mort depuis quelques jours le Real, notamment El Mundo Deportivo qui a fait une assez marrante avec 8-0. 8-0 parce que
les mecs
du Barça en sélection, 0 du Real. 8-0. Ah, okay,
okay. Écoute, très, très franchement, pour un club comme le Real, ne pas avoir de joueurs dans la sélection, c'est juste dingue.
Mais ça n'est juste dingue. Je crois, c'est ça.
Et t'ajoutes. Et à Madrid, on ajoute même à la liste des Espagnols non sélectionnés, là, Carvajal, Hussein, Asensio, etc., Ceballos, compagnie. Ils ajoutent Camavinga. Ils ajoutent Trent Alexander-Arnold.
Bellingham, voilà, qui est passé par la petite porte.
Mastantuono, on ne sait pas s'il sera pris. Donc là, ils disent, mais finalement.
Non, mais c'est très parlant, je trouve, quand même.
Au-delà
d'être une vanne, c'est quand même très, très parlant.
Absolument.
Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, déjà, tu n'as plus les meilleurs Espagnols qui sont au Real. Ça, on le savait. Même si Asensio, c'était censé être un futur grand. Peut-être qu'il le sera, je lui souhaite. Mais il aurait peut-être dû choisir les Pays-Bas, du coup.
C'est exactement. cet exemple-là vaut avec l'Italie quand tu n'as pas assez de joueurs de la Juve dans la sélection. Quand l'équipe d'Italie a brillé dans les grandes compétitions, tu avais toujours une ossature Juve, des joueurs importants de ce club-là qui livraient à la sélection.
Mais c'est comme le Bayern
À partir du moment où ça ne marche pas, tu as les conséquences.
C'est après aussi intéressant de voir que quand les joueurs font les choix de carrière, tu te dis, je vais au Real aussi parce que, par exemple, Mbappé dit pour gagner avec des champions ou pour avoir des ballons d'or. Bon, pour l'instant, c'est raté. Je vais au Real parce que c'est sûr que je suis un peu incontournable pour mon sélectionneur. Tu vois, pour Camavinga, ça pourrait être ça. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est assez rare quand même de voir à quel point c'est des paris ratés. Quoi.
Autant la course au ballon d'or dans l'after, bon, c'est pas ce qui nous anime le plus, et heureusement. Mais imaginons Mbappé gagne la Coupe du Monde. Du coup, il se passe quoi pour le Ballon d'Or?
Ah, mais il est candidat, oui. Ah, très clairement. Bah, évidemment.
Oui, mais si Dembélé gagne la Ligue des Champions, oui,
ça voudrait dire que Dembélé aura gagné aussi.
Et gagne la Coupe du Monde.
Et Dembélé est encore plus candidat.
Et Olysée aussi, d'ailleurs.
Et si la France ne gagne pas la Coupe du Monde, mais que Kvara met un triplé en finale avec des Champions, est-ce qu'il n'est pas candidat?
Je pense que oui. Tu as plusieurs scénars de candidature.
Ouais. Dans un instant, on part au Brésil. On va parler de Felipe Luis, futur coach de Monaco, de Neymar blessé. C'est tout de suite, le 32-16 est ouvert.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h19, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz, Florent Gautreau et... Nous accueillons Gary de Jesus, Gary qu'on a déjà eu plusieurs fois cette année pour parler des clubs portugais en Ligue des Champions. Gary qui suit toute l'actualité du foot portugais, mais aussi l'actualité du foot au Brésil.
Bon Kevin, vous voulez pas échanger trois mots là, nous faire rêver là.
Bonsoir Gary.
Parler du foot brésilien en VO là.
Déjà Kevin il dit pas Gary de Jesus, hein, je pense. Non.
Il dit Gary Jesus.
Salut Gary.
Jesus.
Ah vas-y parlez-vous deux minutes, j'aime bien, ça fait kiffer, j'aime bien.
Bono Gilbert, Bono Dinier, Bono Tatouch.
Tatoud.
Tatoud bem contigo?
Sim, está bem.
Perfeito. Vamos falar pouco da seleção brasileira.
Sim, vamos.
D'accord, ok. Bon, je constate qu'il fait quand même des phrases et que toi, tu nous sors des mots.
Tu fais que des ponctuations, tu vas parler un
peu, là. Tu veux que je parle portugais, tá bem? Mais hoje à noite, acho que vais falar francês aqui, tá bem?
Donc, il y a quelques jours,
il est blessé.
Comme prévu.
Je savais qu'il avait une contracture.
C'est pas de ma faute s'il est blessé. Oh.
Bon, en tout cas, effectivement, il est blessé au mollet. On parle. Alors, moi, je vais m'adresser à Daniel, spécialiste des blessures au mollet de grade temps avant les Coupes du Monde, si je puis me permettre. Donc là, Daniel, lésion musculaire, deuxième degré, grade 2 au mollet.
Grade 2, c'est beaucoup. Hein.
Au mieux.
Ah, mais grade 2, c'est selon les médecins maintenant, excuse-moi.
Au mieux. Et ils ont précisé, ce n'est pas un œdème.
Au mieux, j'ai pas vu le calendrier du Brésil, c'est au mieux, il fait 5 minutes dans le deuxième match. Mais encore.
Non, mais.
Et encore.
Grade 2, vraiment?
Parce que d'ici là, il suffit qu'il sorte une soirée et il se refait un grade 2.
Et 3, c'est plus grave. Mmh.
Ouais.
Non, mais en fait.
Il y a grade 0 aussi.
Le problème, 0, il n'est pas là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je demandais à Gary.
Il y a grade 2 aussi.
C'est qu'on a dit, on le prend parce que le vestiaire le kiffe, ça calme le pays, c'est fantastique et tout. On sait qu'il n'est pas en forme et qu'en gros, il vient en joker et qu'il y a un deal passé avec Ancelotti pour que ça se passe bien. Ça, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Mais après tout, moi, je veux bien l'entendre, j'ai pas de problème. Moi, j'ai rien contre lui. Moi, s'il fait le héros dans un huitième de finale, je suis le premier à l'applaudir et tout, j'ai aucun problème. Sauf que, aujourd'hui, j'ai entendu la conf de Casemiro. Et là, le fameux deal. Je me suis demandé jusqu'à quand ça va durer. Parce que Casemiro, à part lui casser les bonbons sur Neymar, on n'a rien fait. On a parlé que de ça. Et Casemiro, ça a fini par le chauffer. Il a dit Neymar, vous me parlez que Neymar. Donc, qu'il vienne, si, mais il vient, on ajoute une blessure, on ne sait pas son état physique, tout le monde ne parle que de ça,
s'il est blessé,
et on ne parle que de lui, soi-disant ça va protéger le groupe.
Brésil, okay, le 14.
Ok, ça va protéger
Brésil, Maroc.
Normalement, je veux que Gary m'explique.
Normalement, le grade 2, c'est quand même 10 jours d'immobilisation.
Ouais,
10 jours, tu fais rien.
Bah oui.
Et puis après,
surtout le mollet, tu ne peux même pas marcher, tu ne dois pas mettre le pied par terre.
J'ai pas trop eu le mollet.
Le médecin du Brésil a parlé de 2 à 3 semaines.
Voilà, 3 semaines. Normalement, c'est 3 semaines pour être à 100%.
C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas vu le calendrier du Brésil. Je t'ai dit, au mieux, le deuxième match.
Premier match, 14 juin, deuxième match, le 20 juin, contre Haïti.
14, le deuxième. On est
le 20.
Il y a une échéance importante.
Pour le deuxième, tu pourras faire 15 minutes, normalement.
Ouais, mais il y a une échéance importante.
Laquelle?
Le 12 juin, la date limite pour échanger un joueur. En fait, on part déjà de ça au Brésil.
Mais ils ne vont pas l'échanger.
Bah, si,
ah,
si
mais pourtant, c'est quelque chose dont, même la sélection a communiqué avec des journalistes et c'est sorti au Brésil. C'est-à-dire qu'ils vont se donner jusqu'au 12 juin pour prendre la décision de savoir si Neymar reste ou pas, selon l'évolution de sa blessure.
Après, il y a un truc qui m'a quand même un peu intéressé au moment de la liste sur Ancelotti, c'est que j'ai eu vraiment la sensation, y compris dans la façon dont Ancelotti en parlait, qu'il l'a pris, si tu veux, pour s'acheter une paix sociale. Vestiaire, la paix sociale. Et donc, quelque part, je ne vais pas te dire qu'il se satisferait que Neymar soit blessé et absent, mais en tout cas, s'il y a un moindre doute sur la capacité de Neymar à vraiment être important, à vraiment jouer, à être décisif, c'est-à-dire à être en forme, eh ben, je pense que Ancelotti, si c'est un verdict purement médical, par exemple le 12 juin, sera soulagé parce qu'il aura fait ce qu'il fallait pour faire plaisir, on va dire, à la Vox Populi, à tous les gens qui réclament Neymar, et puis finalement, il devra s'en passer.
Excusez-moi, ça me rappelle une situation...
Oui. Tu te rappelles 2002
Non. Ça me rappelle une situation dont on parlait... je parlais en rigolant avec Daniel il y a quelques minutes.
Oui.
Un gars blessé, qui tout à coup, ça arrange tout le monde, que finalement, on lui dise de rentrer chez lui.
Oui. Bien sûr, c'est un peu là, ça pourrait être un peu ça.
Pour le coup, je ne sais pas si ça se terminera au tribunal, comme pour moi.
Non, mais c'est... Moi, ça me rappelle deux choses. Ça me rappelle effectivement Benzema, parce que je pense qu'effectivement, Ancelotti l'a pris pour de mauvaises raisons au départ, parce qu'en quelque sorte, tu te dis, tu fais un pari et tu te dis, je ne peux pas faire autrement. Et la deuxième chose, ça me rappelle Zidane 2002, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça va polluer, là, je reviens sur la conf de Casemiro, ça va totalement pollué Coupe du Monde du Brésil.
Moi, j'ai une autre version.
Est-ce que Gary peut quand même nous raconter ce que ça raconte?
Je termine avec ma version et après je laisse la place à Gary. J'ai une autre version un petit peu plus calculatrice qui est celle de dire je dis que je te prends, ça crée un mouvement, au Brésil on est content, ça permet de protéger tout le monde, mais on sait que tu viendras pas, on sait que tu vas te blesser et le cœur brisé, nous dirons à tout le monde il ne peut pas venir, mais soutenez-nous quand même.
Voilà. Théorie du complot.
Non, c'est pas du complot, c'est du calcul.
Je pense que c'est ça, mais sans se l'être dit. C'est-à-dire qu'il l'a fortement pensé, il l'a espéré, et il s'est dit Neymar va même faire une dinguerie avant.
Il a surtout espéré qu'il lui mette un doublé au premier match.
Bon, alors Gary,
il faut se rendre compte il y a quelque chose que vous évoquez pas et c'est très important, c'est que Carlo Ancelotti, c'est le premier coach non brésilien à être sélectionneur du Brésil pendant un mondial. Et comme tu disais, et t'as raison, je pense qu'il a voulu s'acheter la paix sociale, ça c'est une certitude. Il s'est pris un pressing de la société brésilienne. Je pense qu'on en a pas idée à quel point ils étaient sur lui tous les jours. Juste pour vous raconter une anecdote, je sais pas si on l'a vu en France, mais au Brésil, ça a été beaucoup, on en a beaucoup parlé. Pendant le carnaval de Salvador, Carlo Ancelotti était dans ce qu'on appelle en camarote dans le carnaval brésilien, c'est-à-dire une sorte de loge où il est un peu mis en avant par le sponsor de la sélection. Et il y avait un concert, le chanteur s'est arrêté, a donné un micro à Ancelotti, ils ont un peu échangé quelques mots, et à la fin il disait oublie pas de convoquer Neymar, et tout le monde a crié pour appeler Neymar. Donc c'est il a une pression,
mais bien sûr, on se rend pas compte,
énorme pour l'appeler.
Moi, je trouve ça magnifique.
Ce dont parlait Daniel cet après-midi, la conférence de presse de Casemiro, c'était d'un ridicule, c'est-à-dire que toutes les questions tournaient autour de Neymar, c'est-à-dire que Neymar il est pas là, mais quel va être son rôle, est-ce qu'il peut être important même en étant blessé, etc. Tout tournait autour de ça. Au bout d'un moment, il s'est retourné vers l'attaché de presse, il a dit tu vois, on fait que parler de Neymar, Neymar.
Gary, si je peux me permettre, en fait, on a du mal à se rendre compte des différences de culture selon les pays, de comment on voit le foot selon les pays. On croit qu'on sait comment ça marche au Brésil, parce qu'on dit ouais c'est la passion. On croit qu'on sait comment c'est au Portugal, comment c'est en Italie. En fait, on sait pas. Si tu connais pas cette culture, si t'y es pas parce que tu n'y vis pas ou tu n'y as pas vécu, en fait on sait jamais. On croit qu'on sait, mais on sait pas. Et au Brésil, je le sais pas, donc j'interroge Gary. Bon, nous, comme on nous raconte beaucoup de par notre métier et tout ça, mais ils ont pas la même vision. Et voilà, Neymar occupe totalement du matin au soir.
Mais s'il n'avait pas été là,
il faut se rendre compte du PXL. Le Brésil, c'est une sorte d'États-Unis. C'est 290 millions de personnes complètement fous pour ce sport. C'est le sport, c'est la religion au Brésil, le football, que ce soit pour les clubs ou la Seleção. Et la Seleção, pendant la Coupe du Monde, c'est encore plus fou. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fanatiques autour de Neymar, et le Brésil, il est scindé en deux avec ceux avec qui tu peux discuter Et ceux avec qui c'est pas la peine de parler. Moi, je voyais des journalistes, parce que les journalistes, les commentateurs, ils se mouillent un peu plus. Ils disent que Neymar, il est pas apte à jouer, parce qu'il faut savoir que Neymar, il joue dans une équipe de bas de tableau qui lutte pour pas descendre, et que même dans un championnat paulista, il fait pas des prestations sérieuses.
Et oui, ils disent que Neymar, il peut encore être bon à la Coupe du Monde, et que le Brésil est logiquement favori de la Coupe du Monde.
Bah, oui, à travers les supporters du Brésil y croient parce qu'ils voient Neymar et ils y... c'est la belle histoire qu'ils veulent raconter, c'est-à-dire Neymar c'est l'enfant chéri du Brésil, il a été adoré, on oublie souvent son passage à Santos et tout le temps où il est resté au Brésil avant de venir en Europe, où à chaque fois le départ a été déplacé, et ce qu'il a réalisé à Santos c'était extraordinaire pour son jeune âge, aller chercher cette Libertadores, etc., c'était du jamais vu quasiment depuis Pelé, donc c'était complètement fou tout cet amour qu'il y avait pour lui, et c'est un peu l'enfant chéri, et tout ce qui s'est passé dernièrement pour lui, ces mésaventures, ça a créé un engouement autour de son retour. C'était une telenovela, quoi, c'était vraiment ça, et lui il a créé sa chaîne YouTube où il veut revenir en sélection, etc. Il y a cette pression, bien sûr, par Ancelotti, et cette pression elle est énorme.
Ancelotti, juste un point, je pense que Ancelotti, il est très pragmatique, on le sait, dans toute sa façon de fonctionner, dans son management, et il s'est dit, comme disait Kevin, qu'est-ce qui se passe si je ne le sélectionne pas? Bah, la pression, elle aurait été toute identique, parce que au moindre problème, au moindre faux pas, au moindre souci, et même avant, il y aurait eu aussi pendant 10 jours, pourquoi tu l'as pas sélectionné, il va nous manquer, regarde, on a fait un mauvais match, etc.
Mais avec sa blessure, c'est pareil.
Donc, il le prend, et puis après, nous constatons ensemble qu'il est blessé.
Peut-être.
Et tout le monde reste calme, et plus personne
n'est. En tout cas,
c'est dans ces différences culturelles. Gilbert, je suis curieux que tu sois pas intervenu, parce que toi, tu le sais très bien. C'est comme quand on parle du foot africain, ou de la CAN et tout, on croit qu'on sait, on parle tout le temps de la passion, machin et tout, mais tu sais pas si t'es... Il y a même des gens originaires des pays là-bas, ils pensent savoir, mais s'ils y vont pas très régulièrement
Je te confirme, c'est pour ça qu'il y a pas grand monde n'a compris les enjeux du fameux Maroc-Sénégal.
Bien sûr.
Gary, bouge pas, parce que dans quelques instants, tu vas nous parler du futur entraîneur de Monaco. Qui arrive, c'est pas encore officiel, mais Felipe Ius est annoncé par tout le monde.
Felipe, c'est hispanisant.
Alors, donc c'est Philippe Louis qui est tout qu'on doit dire.
Philippe,
comme Philippe.
À la française, Philippe Louis. Philippe
Louis. Et c'est Louis ou il y a une autre façon de dire Louis?
C'est Louis, mais vous allez dire Louis.
Je vous préviens, dès la rentrée première journée de championnat, pour moi ce sera Philippe Louis.
Bah, alors, prochaine fois, tu m'appelles De Jésus, genre.
Bon, bouge pas, Gary, on revient.
Je t'appelle Gary, c'est bon.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h34, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Kevin Diaz sont là. Gary De Jésus avec nous qui suit l'actualité du foot portugais, du foot brésilien. On va accueillir Cédric dans quelques instants, qui est supporter de Monaco, mais qui va écouter attentivement Gary De Jésus nous parler donc de Philippe Luiz qui arrive à Monaco. Louis. Et qui a entraîné avec succès Flamengo, notamment, qui a eu aussi une carrière de joueur. Gary, il faut que tu nous racontes un peu son parcours.
Alors, Philippe Luiz, faut pas le présenter comme un entraîneur brésilien, parce que c'est un peu comme les Français qui partent très tôt en Europe, et on dit qu'après c'est pas des joueurs français, c'est un peu le même cas. Lui, c'est un entraîneur européen. Et il est revenu à Flamengo terminer sa carrière justement avec cette optique-là de déjà devenir entraîneur là-bas. Il a commencé à étudier et tactiquement on le mettait déjà beaucoup en avant déjà sur la fin de sa carrière à Flamengo. Il est parti coacher les U20, il a passé sa licence de coach. D'ailleurs, je sais pas si ça va poser souci, mais il a que sa licence Conmebol. Et normalement, avec ça, on peut pas entraîner.
Je fais appel à Kevin Diaz, l'homme de la législation des diplômes.
On a besoin de toi là sur entraîneur. Oui. Philippe Luiz. Il a juste son diplôme Conmebol.
Ah ben après, je sais pas, il a pas l'UEFA Pro.
Bah non. Apparemment non, de ce qu'on m'a dit.
Bah écoute, après ça, j'avoue que je sais pas, je connais pas les diplômes pour l'Amérique du Sud. Non, pour l'Amérique du Sud,
Monaco, il peut exercer à Monaco.
Si c'est un diplôme FIFA, oui, moi je sais pas. Après, je connais pas les équivalences des diplômes.
De ce qu'on m'a dit, non.
On retourne dans ta tête.
Je peux vous dire si.
Non, excuse-moi, on t'a dérangé pour rien.
Je peux vous dire ce qui se passe s'il n'a pas l'équivalence. Dans ce cas-là, Monaco devra payer des amendes. Voilà.
Bah c'est ce qu'ils sont en train de chercher de ce qu'on m'a dit, c'est que il a que la licence pro Conmebol. Et qu'il faudrait une équivalence pour être entraîneur numéro 1 de Monaco. et qu'ils seraient déjà en train de, d'essayer de trouver.
Après, ce qu'ils
après, ont après nous, pour avoir une équivalence sur le banc.
Ah, ça, ça marche plus du tout.
Ça marche plus, ça
non, non, il serait assistant et il paierait une amende.
Et qui va payer l'amende?
Monaco.
Le gendre.
Ah, Sartori.
Bonjour Nasser, merci Nasser, au revoir Nasser.
Bon. Maintenant, parlons un peu du coach. Quel style de coach c'est? Quel jeu il pratique? Faut un peu rêver les supporters de Monaco, là. Il y a Cédric qui nous écoute. Vas-y.
Ah, écoutez, je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais c'est le profil qu'on entend toutes les semaines dernièrement. C'est le coach moderne qui joue vers l'avant, qui joue avec intensité, qui joue avec une pression haute. Donc c'est ce style de coach là, ou en tout cas c'est ce qu'il se revendique d'être, et c'est ce qu'il a fait avec Flamengo. Il a ramené une vision très européenne du football à Flamengo, et ça a marché, parce qu'en 2025 il a gagné la Libertadores dans son duel avec Palmeiras toute la saison, et il a gagné le championnat brésilien, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans, la dernière fois qu'il avait été joueur avec Jorge Jesus. Non, c'est un coach qui a une cote en Europe, hein.
Il a fait le tour de plusieurs clubs.
Ouais. La question
notamment avec Blueco, il a été reçu par Blueco, qu'il avait
son agent, c'est Jorge Mendes, donc il a fait le Jorge Mendes tour.
La question qui se pose, c'est nous à Monaco, on connaît bien l'équipe, le contexte, le fait que aucun coach n'y arrive, qu'on pense qu'il y a un problème lié aussi au DS, au directeur sportif, à la gouvernance, et que c'est compliqué pour un coach quel qu'il soit aujourd'hui de se greffer sur ce projet. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'il pourrait quand même réussir, ou est-ce qu'il sait vraiment où il met les pieds?
C'est marrant que tu parles du directeur sportif, parce qu'au Brésil, ça a été évoqué comme un point positif pour l'adaptation de Philippe Luiz, que justement ils se connaissent, que le profil de Philippe Luiz, c'est un profil qui s'adapte complètement à ce qu'a pu connaître Scuro à Red Bull au Brésil. Et c'est quelque chose qui pourrait complètement matcher. Après, avec l'effectif qu'il y a à Monaco, voyant le profil du coach, c'est plutôt à vous de me dire si ça peut coller ou pas. En tout cas, après, c'est toujours pareil. C'est les coachs là dernièrement qui arrivent, et c'est pression haute, intensité. Il a réussi à le faire avec Flamengo, dans un club qui surdomine le continent de par ses moyens. C'est le club le plus riche du Brésil. Donc avec Palmeiras, ils prennent un peu tous les trophées dernièrement, ces dernières années. Maintenant, et après, c'est un club qu'il connaît. C'est un club où il a été joueur, il a été coach en U20. C'est la première fois qu'il va venir en Europe. Donc, mais il n'a pas non plus de phase.
Notons
c'est
quand
inconnu
même
qu'il n'y a pas de phase d'adaptation, parce qu'il a joué en Europe très longtemps.
Monaco était un peu de côté, mais Scuro, c'est un Brésilien quand même, faut le rappeler. Donc là, c'est un Brésilien.
Mais quand le PSG avait joué le Mondial des clubs face à lui, on avait beaucoup parlé de lui, de sa tactique. C'est dans mon souvenir, c'est plus du jeu de position. La façon qu'il a de voir le foot, ça ressemblerait plus à Fonseca. Non, je suis peut-être une bêtise. Je suis pas.
Si, il évoque parfois ce jeu de position, mais c'est toujours il a quand même cette organisation là qui manquait au Brésil, et que lui il a amené avec Flamengo, et qui en ce moment arrive beaucoup au Brésil avec l'arrivée des coachs portugais, où on a de plus en plus une tactique un peu européanisée.
Oui.
De plus en plus, et lui c'est ce qu'il a apporté aussi, c'est sa vision européenne, donc un football plus organisé, un football plus tactique qui avec une intensité beaucoup plus forte, et physiquement aussi beaucoup plus fort. Après, c'est un coach qui va vers l'avant, qui prône ce genre de jeu, en tout cas.
Cédric est là pour conclure avec ce sujet, supporter de l'ASM. Cédric, salut.
Salut, bonsoir messieurs.
Est-ce
bonsoir.
Que du coup, quand t'entends Gary là, tu te dis celui-là il peut me plaire?
Eh ben pas du tout. Je le connaissais pas trop avant. J'ai regardé un peu sur internet, mais là je suis pas rassuré, parce que le fait que ceux qui connaissent Scuro, que je ne peux plus entre guillemets, j'ai été fatigué, blairé. Eh ben, c'est pas forcément.
Ah, donc disqualifié, quoi.
Ouais, non, mais parce que, en fait, moi, déjà, moi, Pocognoli, on lui a pas laissé sa chance. Je suis pas fan non plus, c'est pas ça. Mais tant qu'il y aura Scuro qui dirige tout par derrière, il est pour moi responsable du recrutement, eh ben, non, ça peut pas le faire. Parce que, vu les buts qu'on encaisse, les résultats qu'on fait, il est jamais remis en cause. J'ai même l'impression que c'est lui le patron, et que notre Ribolliette, il est plus là. Donc, déjà qu'on commence par le dégager de lui, parce que ça, et après on pourra vraiment peut-être parler de choses plus intéressantes. Maintenant, moi je suis dépité, parce que on sait comment ça se passe à Monaco. Il faut des personnes à fort caractère. À l'extérieur, ça se passe toujours bien, parce que il y a l'enthousiasme, et puis le coq il est rempli. À domicile, c'est compliqué, Et il faut des joueurs de caractère, et c'est ce qui nous a manqué. Il y en a qui sont là depuis un petit peu trop longtemps et qui se sont endormis, qui ont disparu de la circulation. Mais non, moi, déjà, j'interviens plusieurs fois, mais j'avais même été dans le stade, j'avais fait une affiche en disant que ce Kourou démission, parce que...
Ça, ah, t'es pas venu avec ton affiche Kourou démission.
Ouais, c'est ça, je l'avais fait, mais ouais, voilà, je... Non, parce que c'est pas du tout dans mon état d'esprit de faire ça, mais pour moi, il a désingué l'image de Monaco. Moi, je... Bon. L'âme, voilà.
Et du coup, Philippe Luis, tu t'adhères pas. Bon, écoute, Cédric, on va voir. Là, maintenant, s'il arrive, hein, on va quand même voir ce que ça donne.
Là où je rejoins Cédric sur un point, c'est qu'on a fait la conclusion. On a fait le débat hier en disant le vrai problème, c'est pas le coach, c'est quel orga, quelle équipe tu lui proposes et quel projet, en gros, tu peux avoir. On dit que Thiago Scuro prend un peu de recul et puis, en fait, tu mets un coach brésilien qui connaît pas du tout la Ligue 1 et qui est censé s'adapter immédiatement à cette équipe dont on sait qu'elle est très difficile à bouger. C'est vrai que le départ de Damien Perinel, qui lui-même, à l'inverse, connaissait parfaitement un peu le contexte, tout ça, moi, effectivement, me laisse sceptique. Ça n'a rien à voir avec les qualités de coach de Philippe Luis que moi, je connais pas.
Oui, tu veux dire, mais, comme on disait tout à l'heure pour les Luis Enrique et Arteta, la chambre, l'appartement n'est pas rangé.
Pas rangé du tout. Si tu changes tout, comme tu disais, tiens, Daniel, par rapport au Milan AC, c'était une très bonne comparaison. Ouais. Tu changes tout le monde en disant, les gars, vous avez été nuls, c'est pas, vous n'avez pas le droit d'être septième.
Là, tu refais toute la chambre, quoi.
Et tu refais la chambre et ta ligne. Et là, si tu as un directeur sportif qui te dit, moi, je viens, mais avec Philippe Luis, parce que j'y crois.
Président, tu peux pas compter dessus, non, si ça sert à rien, ça.
Un PS qui te dit qu'arrive avec son coach, comme Lorenzi arrive avec son coach, etc. Moi, je pense que l'alignement est important.
Pourquoi tu vas disponible à un moment, il faudra peut-être qu'un club s'intéresse à toi.
Oui, pas disponible, Monaco l'appelle, il y va à pied.
T'as quand même fait un petit peu tes preuves maintenant.
Bah, oui.
Faudrait peut-être qu'on te donne ta chance.
Doucement, mais.
On va, mais le problème, c'est comme Daniel est fâché avec Sartori, il va pas filer ton numéro. Et voilà.
Sartori, je peux t'arranger ça.
Mais non.
Non, allez, on arrête, les gars.
Tu dis que t'as un copain de Nasser, c'est bon.
Attends, je remercie Cédric au 32-16.
Faudra qu'il gère ça comme.
Je donne 20 secondes.
On aura besoin d'aide.
Non, mais pour le coup, je pourrais traduire tout ce qu'il faut pour Philippe Luis. Mais pour le coup, moi, je pense qu'il peut arriver. Et comme on disait avec Flo et comme on a dit tout à l'heure avec Arteta, bien sûr que la chambre de l'AS Monaco n'est pas bien rangée, mais ça va mettre du temps et il va falloir laisser un peu de temps à un entraîneur dans ce club enfin, avant de, parce que là, il change tous les 6 mois. Non, c'est compliqué.
Temps, c'est pas le problème.
Merci, Cédric.
C'est le reste, le problème. Ça n'est pas que le temps laissé à un entraîneur. Parce que Adi Hütter, il a eu du temps.
Dans un instant, toute l'actu du jour, notamment du barrage avant la rencontre de demain entre Nice et Saint-Etienne. Jimmy me parle. Oui, Jimmy. Et Gary, merci beaucoup.
Également. Jimmy, t'as dit, n'oublie pas de dire au revoir à Gary.
C'est exactement. Ça. Jimmy,
c'est ça, n'oublie pas de dire bonne nuit à
Gary. Jimmy, c'est maître des élégances. Ah. Voilà. Il a bien raison d'ailleurs. Parce que peut-être que j'allais oublier pour tout vous dire.
Bonjour Gary.
Salut Gary, merci beaucoup. À très vite.
Merci. Allez, beaucoup.
On se reparle dans la Coupe du Monde. De toute façon. Dans un instant, le reste de l'actu du jour, donc, dans l'after, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h45, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. J'ai plein d'infos à vous partager. D'abord, demain, sur RMC en intégralité, le match retour de barrage entre Nice et Saint-Etienne. Et vous savez qu'il y a un imbroglio autour de Ali Abdi. Alors, avant de vous parler d'Abdi, je signale quand même que Hicham Boudaoui, lui aussi, ne pourra pas jouer. Protocole commotion pour le niçois Boudaoui, forfait demain. Alors,
et Ali Abdi n'a rien à voir avec Kate Abdo.
Exactement. Okay. Ali Abdi a été sélectionné avec l'équipe de Tunisie pour aller à la Coupe du Monde. Il est vice-capitaine, je crois, de la sélection tunisienne, c'est un taulier et tout. Bon. La sélection tunisienne, enfin la fédération tunisienne, ils ne veulent rien savoir. Eux, c'est date FIFA.
Le règlement, c'est le règlement.
Il y a même la finale de la Coupe de Tunisie dans ce week-end, là. Même pour les clubs locaux, ils ont dit non, les mecs qui sont sélectionnés à la Coupe de Tunisie, on s'en fout, même si c'est la finale, ils ne la jouent pas.
Donc, bon, et c'est ce qu'a dit aussi Sabri Lamouchi.
À partir du moment où ils prônent cette position-là, c'est difficile de faire différent pour Nice. Donc ils ont dit, désolé, Abdi, c'est les dates, il doit venir. Alors, pour rentrer dans les détails, et Lamouchi effectivement a dit ce soir, j'ai eu le directeur sportif de Nice, je lui ai
expliqué, le règlement est de notre côté, donc désolé, ce sera, il vient en sélection.
Ali Abdi devait déjà partir avant le match aller.
Ouais.
Il est resté contre l'avis de la fédération, donc il a pris un risque en fait, Abdi, parce que il est resté contre l'avis de la fédération tunisienne. Et là, en Tunisie et autour d'Abdi, on dit quand même merci les gars. Puel, il l'a pas fait jouer. Donc c'était bien la peine de se battre.
Enfin, il est rentré.
Oui, mais il n'était pas titulaire pour que le type reste. Et finalement, voilà. Et là, Abdi aujourd'hui est parti finalement en Tunisie. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il a un problème administratif. Il faut qu'il fasse son visa pour les États-Unis. Et il y avait une deadline et tout, donc il fallait absolument qu'il le fasse là. Donc il est parti en Tunisie. Et ce soir, Nice, dans un communiqué, dit ouais, mais il va revenir demain. Alors bon, si le gars il revient, il reprend l'avion demain matin ou ce soir tard, je sais pas, pour le match demain, bon, enfin c'est quand même un imbroglio. Mais voilà, en fait,
le joueur à un moment a dit ce qu'il voulait.
Mais non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il est lui l'objet.
J'ai bien compris.
D'un truc qui le dépasse complètement, mais le pauvre Abdi.
Il
s'est fait allumer partout aujourd'hui, okay, mais qu'est-ce qu'il peut, lui
partout, mais être l'objet de. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas adulte, il ne peut pas prendre des responsabilités?
Oui, mais t'es d'accord que, quelle que soit
la décision. Il l'a fait, Daniel. Il devait partir avant le match aller, il a dit non, je reste.
Pour le coup, Daniel, quelle que soit la décision qu'il prenne, on va le lui reprocher d'un côté ou d'un autre.
J'ai compris.
Donc c'est vrai que c'est cornélien pour lui.
C'est vrai.
Après, le truc quand même, ce que je ne comprends pas, c'est que. Ok, il y a la Coupe du Monde. Ok, il y a des dates, il y a des règlements. Mais tu peux, là, en l'occurrence, la Coupe de la Tunisie, la finale de la Coupe de Tunisie ou ce barrage, même si c'était pas prévu, même si non, c'est une erreur de calendrier.
La Mouchi doit lui dire, écoute, sauf ton club et arrive après.
Mais bien sûr, enfin, tu dois lui jouer le match.
La Mouchi, en fait, doit laisser à disposition sa ligne sur sa fédé.
Non, mais je pense que la fédé lui met la pression.
Bah, voilà, c'est ça. Alors que ce soit la fédé et tout, mais alors la fédé en Tunisie, il devrait pas faire ça. Il devrait pas être rigide de cette façon-là.
Non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très très rigide.
Faut que tu joues avec ton club.
Attendez, il y a quand même des choses où, bien sûr, le club, qu'il veuille son joueur, c'est normal.
Il le paye au passage.
D'accord. Bien sûr, c'est normal. Mais que la fédération veuille le joueur, c'est aussi entendable. Ouais. Et il y a une Coupe du Monde à jouer quand même pour la Tunisie.
Il y a un chemin.
C'est demain, il arrive, il part samedi matin, il prend le premier avion, il y va, arrête.
Oui, mais s'il se blesse.
Ah bah oui, mais
dans la rue. Dans ces cas-là, non. Là, c'est exactement comme si tu me dis, ne joue pas la J34. Alors, tu peux être blessé aussi la J34.
Non, ça n'a rien à voir. La J34 est pendant les dates qui sont allouées. Bah oui, mais c'est à la. Mais ce n'est pas le problème du club.
Que comme la LFP, c'est pas mis dans. Comme la LFP.
Attends, le problème vient de la LFP, c'est tout. Et aujourd'hui, la fédération tunisienne est dans son droit et le club de Nice. Est dans son droit.
Mais
aujourd'hui, l'une et l'autre n'ont pas à être tributaires de l'incompétence des certains.
Comme on est dans quelque
chose. Maintenant, on peut le faire en bonne entente.
Le cadre légal est juste, et tu as raison de le rappeler, ce que tu dis est très juste. Est-ce qu'on peut donc recourir à un truc, comment dire, un élément facile? Très simple, qui est celui du bon sens, de dire joue ton match.
Mais il y a des joueurs qui n'ont pas été libérés par les clubs français pour les JO, pour certaines échéances. Il n'y avait pas aussi un problème avec certaines
JO,
dates de la
CAN. Dans ces cas-là, c'est inextricable.
C'est pas un geste sympa. C'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait des gens dans le football français qui anticipent les choses.
Attendez, on avance. Autre affaire. Les sanctions de Nantes-Toulouse. Donc la commission de discipline de la Ligue a décidé d'entériner le score de 0-0 entre Nantes et Toulouse. Nantes a pris un match à huis clos pour leur premier match en Ligue 2, en l'occurrence
0-0.
C'est
un scandale.
C'est pas match perdu.
Et à Monsieur Deneux,
justement, c'est ça le problème.
Monsieur Deneux s'explique, il dit oui, mais en fait, il y avait 0 en jeu sportif.
On va en parler maintenant, Kevin, c'est ça l'histoire, t'as compris ou pas? Maintenant, on va parler de Monsieur Deneux qui est arrivé pour annoncer ça. Il faisait une drôle de tête d'ailleurs quand il a dit ça.
Et donc, il a expliqué en fait, on a fait ça parce qu'il y a zéro enjeu sportif. Donc, ça aurait rien changé dans l'absolu.
Ça, c'est terrible. Parce
ni pour
fait,
Toulouse, ni pour Nantes.
Parce qu'en fait, ce truc peut faire jurisprudence.
Non.
Attends, juste un point. Je reviens sur les propos de Monsieur Deneux. Le fait de choisir en fonction de savoir s'il y a enjeu ou pas la sanction qui va avec, ça, déjà, c'est pas possible.
C'est vrai.
Ça, c'est pas juridique.
Ah non, mais c'est sûr que Monsieur Deneux, on ne sait pas ce qui lui est passé dans la tête.
Est-ce qu'on peut penser un petit peu à une partie de ma paroisse dont je suis très fier, c'est-à-dire le football amateur? En fait, aujourd'hui, le football professionnel, ce n'est pas que le football professionnel, c'est la vitrine d'un football où il y a 2 millions de licenciés. On ne parle pas des
la commission de discipline de la Ligue, c'est pas la commission de discipline de la Fédé,
c'est l'exemplarité.
Les mecs qui sont descendus sur le terrain. Il y a des clubs amateurs là qui ont perdu des matchs et. A raison, parce qu'il y a eu ce genre de problème. Mais en pro, c'est bon.
Je suis d'accord avec vous et je m'alignerai sur vous pour dire que c'est un scandale. Est-ce qu'on peut néanmoins écouter ce qu'a dit Monsieur Deneux? Monsieur Deneux, dans l'interview, dit quelque chose que vous allez pouvoir contester, parce que ça l'est contestable. Néanmoins, il explique le truc en disant que donc, comme il n'y avait pas d'incidence sportif sur le résultat, que ça changeait rien en gros et que en gros ils prennent la décision.
Même pas financière d'ailleurs, ouais, parce que Toulouse avait sa place.
Il y avait zéro conséquence. C'est ce qu'il dit lui, c'est pas ce que je dis moi, écoute bien. Il dit zéro conséquence sur rien du tout et donc on entérine le score au moment de l'interruption. La dernière question est celle de la jurisprudence. Il dit mais puisque vous avez décidé ça, une autre fois quand ça arrivera, vous ne pourrez pas faire autrement. Il répond très clairement non monsieur, ça n'arrivera pas, c'est un cas d'exception. C'est juste parce que c'était le dernier match de la saison et qu'il n'y avait aucun incident. Dans un autre cas, rassurez-vous, ça fera match perdu. Oui, mais il le dit dans l'interview. Oui, mais... Maintenant, vous pouvez dire que vous voulez que néanmoins ça reste scandaleux.
Non, non, mais
je suis d'accord, on n'aurait pas dû prendre cette décision.
Pourquoi.
Je voulais juste vous dire ce qu'il avait dit.
Okay. Il y a une
c'est très bien.
Il y a une première raison.
J'aime bien Monsieur Deneux, mais là, il s'est trompé.
Non, mais il y a une première raison qui est celle de Kevin, qui est tout simplement, justement, le règlement. Les mecs descendent sur le terrain par rapport à tous les terrains où ça se passe, tu prends une sanction. La deuxième, même s'il te dit c'est une exception, quand justement tu fais. Tu prends ce genre de sanctions, tu ne penses pas simplement à, au championnat, au résultat ou à la place de Toulouse qui était déjà acté en l'occurrence.
Et puis si ça ne change rien, mais B3-0,
ben
alors
Et il y a même autre chose.
Les règlements,
c'est, dans le règlement, il était aussi possible de retirer des points à Nantes pour ça, le début mais de sa saison en Ligue 2. Et bien ils ne l'ont pas fait non plus.
Top alerte.
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites.
Top alerte Argentine, Georges Quirino, qui suivra d'ailleurs l'Argentine pour nous pendant la Coupe du Monde, nous signale que la liste vient de tomber.
Mastantonio.
Et là. Les gars, je peux vous annoncer officiellement que Messi est sélectionné.
Ah.
Mais aussi. Medina.
Ah. Hein? Medina.
Barco.
Balerdi.
Mais non. Et Barco.
Barco.
Ouais, mais pas Joaquim, évidemment, il est blessé. Joaquim.
Rulli.
Ouais.
Mais pas Mastantono.
Oh, mais
c'est zéro au Real.
Ah ouais, donc vaut mieux jouer à Marseille que au Real.
Et la sensation Nico Paz, nous signale Jimmy de Côme.
Ouais, Nico Paz, c'est
fort. Ah oui,
lui, avec Nico Paz, c'est très fort.
C'est fort, ouais.
Voilà. Alors, tiens, à propos, j'ai regardé. Un truc intéressant, enfin marrant.
Balerdi, c'est énorme.
Est-ce que vous savez que. Je vais vous expliquer comment Crystal Palace a gagné une Coupe d'Europe grâce à Textor.
Non. Crystal Palace a volé une Coupe d'Europe à Strasbourg.
Exact.
Que le grâce à Textor. Moral, c'était Strasbourg.
Grâce à Textor. En fait, ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on a oublié ça.
Oui,
très bon article sur RMC Sport aujourd'hui.
Reversé.
En fait, rappelez-vous que l'été dernier, donc, Crystal Palace gagne la Cup. Donc la Cup, tu vas en.
Europa League.
En Europa League. Et là. Nottingham Forest lève le bras et dit attendez, il y a un problème là. Parce qu'il y a conflit Lyon-Crystal Palace, même proprio. Ils peuvent pas jouer la même Coupe d'Europe.
Donc ils vont en Conference League.
Donc comme Lyon était mieux classé au classement UEFA, c'est Crystal Palace qui est dégagé en Conference League, remplacé par Nottingham Forest. Et Crystal Palace, tu vois pas qui gagne la Coupe d'Europe. C'est pas grâce à John.
Nottingham Forest a failli gagner une Coupe d'Europe aussi.
Moi, je le dis, je donne pas plus de 15 jours, on va découvrir qu'il y a un complot contre Strasbourg.
C'est grâce à John.
Sur Road to Leipzig, ça pouvait pas échapper à Strasbourg. Il y a eu un truc. On va découvrir une histoire. C'est
et
pas
sinon,
possible.
J'ai un
on
nouveau.
On peut pas avoir volé cette joie à Gilbert sans que, Flo, gratuitement.
Flo hier nous a gratifié d'un magnifique discours ChatGPT du nouveau président de l'OM.
C'est ça, Richard.
Et ben aujourd'hui,
d'ailleurs, je l'ai facturé à l'OM.
Ouais. Alors là, t'as le discours ChatGPT de Lorenzi aujourd'hui. Ah. Tu l'as pas celui-là ?
Ah si, je l'ai vu.
Ah, parce que je l'ai, moi, j'ai sous les yeux.
Vas-y.
C'est le communiqué de l'OM.
Vas-y.
Donc, Lorenzi, ouvrez les guillemets. Rejoindre l'Olympique de Marseille est une chance, un honneur. Un grand défi que je suis fier de relever.
Non, attends, c'est pour de vrai ou c'est le chat
GPT? C'est pour de vrai.
C'est pour de vrai.
Attends, je vais te le faire apparaître.
Avant tout, je voudrais remercier le président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d'un projet sportif durable, ancré sur des valeurs claires et sur la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec exigence dans l'intérêt du club et de ses supporters. Julien Cazard apprécie.
Alors, je suis déjà. Alors, j'avoue que j'ai été estomaqué par la prestation de.
Alerte liste.
Ben, pour vous, c'est fini et on a.
Gagner 10 000 euros ou bien le pack Coupe du Monde de la semaine que ça tombe. Vous avez 5 minutes pour envoyer liste par SMS au 732-16. 5 minutes pour envoyer liste par SMS au 732-16. Julien, pardon.
Je disais, je voulais féliciter Flo pour sa prestation d'hier soir. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. C'était excellent. Voilà. C'était.
C'est vrai, t'es au courant pour Strasbourg ?
Ah, mais le complot. Mais moi je sais depuis le début.
Cette histoire.
Déjà, Strasbourg dérange.
Comment on a pu leur enlever ce trophée ?
On sait très bien, voilà. On veut une hégémonie d'un seul club, alors que.
Ah, tiens, une information, Julien Cazard.
Oui, merci.
Tu sais pourquoi le PSG a été très content de célébrer une éventuelle Ligue des Champions au Champ de Mars ?
Alors non, pourquoi il n'y a pas de la
réflexion ? Pour l'agent marketing, en fait.
Ah !
Oui. Parce que l'an dernier, on a fait la photo devant l'Arc de Triomphe. Et donc, cette année, on veut la photo devant la Tour Eiffel.
Oui.
Donc, en fait, ils vont arriver par l'autre bout du Champ de Mars sur un bus. Là, il y aura une grande tribune, un peu comme pendant les Jeux Olympiques. Ils vont marcher comme ça, un peu, tu vois, à hauteur d'homme.
J'aime pas trop qu'on prépare la fête avant. Ça rappelle 2002, les deux étoiles, et Johnny Hallyday.
Et ce qui est prévu, c'est la photo avec la Tour Eiffel en arrière.
Mais moi, si elle n'est pas aux couleurs du Qatar, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'elle est aux couleurs du Qatar, la Tour Eiffel?
Je n'ai pas sa génération.
J'ai une petite surprise.
Faut demander à Rachida Dati, c'est son arrondissement. Elle a des liens.
C'est une amie. J'ai une petite surprise pour Gilbert. Parce qu'en fait, normalement, ils auraient dû gagner la Coupe d'Europe. Sur vous, t'as raison.
Pour moi, c'est le vainqueur moral.
Et j'ai le discours de Marc Keller, puisqu'il avait prévu
de faire son discours.
Je l'ai dit, plusieurs années, beaucoup doutaient.
RC Strasbourg-Alsace.
Mais nous avions une conviction, Strasbourg mérite un grand club. Mérite plus qu'un animateur de
l'After. C'est fini, demain soir l'After sera là.
Un club populaire, ambitieux et fidèle à ses valeurs.
Demain soir l'After sera là, dès la fin du barrage. Et tout de suite, c'est les nuits du Casar. Enchaînez, bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.